Hello? Hello? Anybody home?
Hello, buddy. I never thought I'd ever see you again.
Get away from her, you bitch!
Vitare viva.
Tout à l'heure, noir.
J'ai le peu.
Ben voilà. J'ai un couteau de revanche.
J'aimais bien cette voiture.
What do you think?
Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux.
8. Bonsoir à tous et à toutes, vous écoutez les Brigades Cinéphiles sur Fréquence Mutine au 103.8. C'est la phase B, c'est la phase débat ce soir.
Et oui,
Julien est content, mais Julien n'est pas là en tant que brigadier.
Non,
Julien est là en tant que président d'association, car ce soir, le thème de la soirée est les représentations LGBTQIA+, dans le cinéma. Petite contextualisation avant de commencer de pourquoi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la sortie récente d'Emilia Pérez.
Relativement récente, oui.
Relativement récente, et on a traité de ce film à la radio. Il y a eu un débat sur ceux qui aimaient, ceux qui n'aimaient pas. Bon, moi j'ai détesté, mais pour des raisons du coup dont on va parler ce soir un tout petit peu. Pour m'accompagner en tout cas là-dedans, j'ai Athéna. Athéna, bonsoir.
Enchantée.
Comment vas-tu?
Ça va, là je suis un peu dans le jus pour préparer la soirée Karaoke Queer Boom de jeudi prochain, qui sera une soirée en soutien à la Marche des Fiertés de Brest.
Super,
pour récolter des fonds.
Magnifique.
On va en reparler juste après. Merci beaucoup Athéna, et j'ai avec moi Oal.
Hello,
Oal, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu?
Eh bien, je viens de l'association Brest-la-Trans, non-binaire et en questionnement. Une association qu'on a créée il y a 2 ans, bientôt. On dit tout le temps 1 an ou 1 an et demi, mais en vrai, ça fait longtemps qu'on existe maintenant. Et on a été très gentiment invité par toi.
Bah oui, c'est normal, il fallait pas que je sois seul pour parler de tous ces sujets, parce que on peut faire des erreurs. Et le mieux, c'est d'être accompagné par des personnes qui sont au courant de tout ça. Et du coup, la Marche des Fiertés, le 14 juin,
c'est tout à fait.
Bientôt. Ça se passe bien pour l'instant, il y a eu le Cidraction, il y a eu pas mal d'événements. Vous êtes content c'est...
Bon, en tout cas, je suis très content de Distraction. On a réussi à récolter 3300 euros et des brouettes cette année, donc à travers un drag show qui était le 22 mars, qui était le même jour que les Maraudes en ville, et un bingo drag qu'on a eu le 11 avril, si je ne me trompe pas. Donc 3300 euros, c'est assez énorme, surtout pour une troisième édition ici à Brest. Et puis la Marche des Fiertés, on avance bien. Bientôt, on va pouvoir dévoiler l'affiche. Donc stay tuned. Et on est plutôt bien, franchement.
Super, ben merci beaucoup. Et j'ai failli oublier Julien, que fais-tu toi à West Up?
C'est vrai. Donc je suis représentant de l'association West Up, qui est une association étudiante qui fait de la représentation LGBT et de la prévention sexuelle au sein de la faculté de l'UBO, donc Université de Bretagne Ouest. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. On fait des activités avec les étudiants, on leur propose des permanences pour pouvoir débattre et discuter autour de sujets divers et variés. Super. Et voilà.
Bon, super. Ben merci beaucoup d'être là, merci d'être venu, ça fait super plaisir. On va marquer une courte pause du coup, on va peut-être mettre une chanson sur un film, peut-être. Je pensais à Boys Don't Cry, si ça vous va, pour enchaîner sur le premier thème de cette soirée, qui sera du coup la transidentité au cinéma.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
Let's go.
qu'est-ce qu'on aime ces synthés des années 90. C'est excellent, on adore. Voilà, OST tiré du film Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, réalisé par Kimberly Pierce. Ça tombe bien parce que on va engager ce soir un débat. C'est même pas un débat en fait. Il n'y a pas lieu d'avoir de débat, mais bon, malheureusement,
c'est pas censé être avoir un débat en tout cas.
Voilà. Et malheureusement, nous en sommes ici, rendus là. Donc, questionner un peu la manière dont la transidentité, pardon, est représentée à l'écran, dans la manière de les représenter. Donc, pour ce panel, on a Boys Don't Cry, le documentaire Petite Fille. 20 000 espèces d'abeilles, Lawrence Anyways, Emilia Pérez et Dallas Buyers Club. Ça fait beaucoup de films sur beaucoup de périodes. Alors, ces dernières années, en tout cas, et pas que, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup moins d'humour dans les films qui représentent la transidentité. Et outre le fait qu'il y ait moins d'humour, parce que on a pu aussi amener ça à des clichés, disons qu'il y a beaucoup de dramatisation, de martyrisation des vécus trans et une vision cis du vécu trans. Voilà. Si quelqu'un veut se lancer, on peut parler, si vous voulez, on peut parler de Boys Don't Cry, je crois que toi tu l'as vu, Athéna. Non.
Boys Don't Cry. Alors, attends, parce que du coup,
j'ai lu le résumé au grand minimum.
c'est Oal qui l'a, du coup qui l'a vu.
Ça fait longtemps que je l'ai vu, moi.
Si tu saurais te rappeler.
Ouais.
Faire un petit résumé peut-être.
Un petit résumé, c'est tiré d'une histoire vraie. J'aurais plus les noms des personnes, mais en gros.
C'est tiré de Brandon Tena et Lana Tisdale, je crois.
Aux États-Unis. Mm. Et c'est l'histoire du coup de Brandon notamment. Qui s'intègre dans un nouveau groupe d'amis qui notamment tombe amoureux et en fait c'est une personne trans et les personnes ne le savent pas quand ils le rencontrent et ils finissent par l'apprendre. Je sais pas si on peut dire ça, mais ils le prennent mal entre guillemets. Et ils deviennent méga violents notamment ils le...
Tu peux spoiler.
Ok. notamment parce que c'est une histoire vraie. Ils l'assassinent. De ce que je me souviens, c'est notamment pour un peu sauver l'honneur de sa meuf, quoi.
D'accord. Mm-hmm. Il y a un acte héroïque dans le scénario, en tout cas. C'est d'une tristesse incroyable.
On commence joyeusement.
Ouais, voilà. Il y a quand même cette idée un peu répandue du piège, du trap qu'on peut voir sur les réseaux ou même sur. Enfin, je regardais aujourd'hui Le Figaro. Là, pourquoi je fais ça? Non, mais c'est à cause de la fille de De Niro. Voilà, c'est
cette histoire.
Voilà, on en reparlera plus tard. Oui. C'est d'une tristesse. Et toi, t'as quel sentiment par rapport à ce film avec ton regard aujourd'hui?
En fait, ça m'a rappelé la loi qui, il me semble, est toujours en vigueur aux États-Unis, qui est le Panic Gay Defense.
Gay Panic Defense.
C'est ça. Qui, en fait, permet d'avoir une circonstance atténuante quand il y a un acte homophobe. Et je crois que c'est compris les actes transphobes aussi dedans, quoi.
Oui,
d'accord.
Et donc, c'est acceptable d'être violent quand on est surpris de tomber sur une personne trans ou gay, quoi. Ce qui est horrible, je suis pas du tout en train de défendre ça. C'est ça.
D'autant que ça, c'était dans les années... du coup, c'est sorti en 80... Non, en 2000, peut-être 90-2000
90.
Et ça n'a pas évolué aux États-Unis. Ça n'a pas évolué...
ça évolue que très peu aux États-Unis. Et ça semble régresser. Beaucoup, ça va, vitesse grand V.
Sans déconner. Sans déconner. Film triste, film à conseiller, film qui t'a marqué, toi?
Oui, en vrai, oui, parce que je l'ai vu quand j'étais en train de commencer à capter que j'étais trans. Du coup, c'était quand même assez. Je vais pas dire évocateur, mais genre, je pouvais ça comprendre. Quoi. Ouais, c'est ça.
Tu t'identifiais beaucoup.
Ouais. Mais en vrai, pas à regarder si on est dans un bad mood, quoi.
Oui.
Mais c'est une histoire vraie, donc en vrai, c'est quand même intéressant, quoi.
On peut dire que c'est quand même un film qui va beaucoup dénoncer et montrer une image très, très choquante et très marquante pour pouvoir alerter les gens de ce qui peut se passer, en tout cas aux États-Unis.
Grave. Et en vrai, quand on voit les chiffres qui sortent tous les ans au Tidor, le journée de la souvenir du souvenir trans. C'est quand même important de se rappeler que en fait c'est aussi important de représenter la violence qu'on subit, quoi.
Bah oui, oui, oui.
Tout à fait, oui.
Et bah justement, moi j'avais une question là-dessus. Enfin, comment dans ce film, elle est, enfin, c'est un assassinat en fait concrètement, et elle est traduite par par le meurtre, ce qui est malheureusement réaliste. Est-ce que c'est, enfin, est-ce que ça doit passer par là au cinéma? Est-ce que c'est positif? Moi, je pense que oui. Mais je pense qu'il faut un peu choquer pour faire passer un message. Après, certains, ça peut être vraiment. C'est comme lorsqu'on parle de racisme ou autre, ou de plein d'autres choses dans des films, on dit non, mais il n'y a pas besoin d'être violent pour faire passer un message. Est-ce que dans ce film, tu as senti vraiment un message, ouais, comme disait Julien, plus ouvert, inclusif, ou au contraire, c'est pour faire du sensationnalisme, ou vous pourrez créer un truc qui va marquer parce que c'est le sujet qui marque, ou pour tout un tas d'autres raisons.
Je pense que c'est quand même important qu'il y ait cette représentation-là de la violence, de des meurtres qui arrivent quand même très souvent et tout. Surtout dans les années 90 où les films qu'il y avait à cette époque-là, ils sont quand même pas très bien faits en vrai. Ils ont mal vieilli.
Disons qu'il y a Ace Ventura, si vous voulez vous aventurer sur ce terrain-là. Voilà.
Mais je pense que c'est... Enfin, il faut qu'il y ait notamment ça, quoi. Évidemment, si on représente que la tristesse de quand on est trans, soit on vit enfermé chez soi, soit on se fait tuer. Non, il ne faut pas qu'il y ait que ça, évidemment.
Malheureusement.
Mais c'est quand même important de le montrer aussi, quoi.
Avant tout, on parle d'êtres humains, donc ils sont... Enfin, il n'y a pas que ça dans leur vie, quoi. Il y a le crédit de la baraque, les couches. Enfin, il y a plein d'autres sujets plus importants que ça, et de ce sensationnalisme que les gens se font sur ces identités.
Je pense que le fait que la personne qui est dirigée ce film soit une personne genderqueer, je pense que ça fait quand même qu'il y avait quand même une certaine intention de montrer ce qui s'est passé, parce que bon, voilà, c'est inspiré de faits réels, d'une personne réelle, de sa vie et de sa mort, malheureusement. Et c'est vrai que oui, le fait que ce soit une personne de la communauté qui ait dirigé ce film, cas, à mon sens, oui, ça aide. Et puis ça démontre quand même un certain sens de... C'est le problème que cette personne ait fait le film vraiment par pur sensationnalisme. Ouais. Et plus pour effectivement montrer et garder une trace d'événements comme ça, de montrer que c'est une réalité et c'est... Comment dire ? Essayer de faire bouger les choses par ça, quoi. Le soft power, surtout aux États-Unis, c'est quand même très important, quoi. Et pour la communauté queer, surtout à l'époque.
Puis on sortait de Reagan, il y avait
les droits trans, c'était clairement genre. On était très loin, quoi.
Ouais.
Donc, même tout ce qui est mariage pour tous, on en était aussi très loin. Donc,
c'est venu dans les années 2000 en Californie, je crois.
On a eu... Ouais, il y avait la Californie. Après, en 2008, je crois, il y a eu ce qu'ils appelaient la Prop 8. Donc, c'était la proposition 8, mais du coup, 8, genre comme N en anglais. Mm-hmm. Et qui visait à inverser, bannir cette loi.
Annuler.
Annuler. Okay. Au final, ça a été annulé. Et après, il n'y a pas eu de match pour tous nulle part jusqu'à 2015, je crois, quand ça a été légalisé partout. Mm-hmm. Mais après, même au début des années 2000, en 2000 pile, il y avait des États où l'homosexualité était encore pénalisée. C'était au niveau pénal, je crois que c'est en 2003 qu'il y a eu, où ça a été dépénalisé au niveau national. Donc...
Oui, donc ça a mis du temps à avancer.
Ouais.
D'accord. Si vous voulez dire quelque chose de plus sur ce film ou pas,
je rajouterai juste j'appuierai juste ce qu'avait dit Owald juste avant sur le fait qu'il ne faut pas que faire en sorte de faire des films choquants pour pouvoir montrer et faire bouger les choses. Il faut montrer les deux parts, en fait. Il faut montrer quelque chose qui choque pour pouvoir montrer qu'il faut faire attention. Et que c'est toujours d'actualité et qu'il faut toujours pousser la représentation et faire en sorte que ça soit communément accepté.
C'est pas pour rien que ça s'appelle une lutte.
Exactement, je crois. Tout à fait. Et de deux, il faut montrer aussi que ces personnes, elles ne sont pas anormales. Ce ne sont pas des personnes elles sont différentes, mais pas. Elles sont pas. Comment dire?
Alors, moi, je trouve pas. Mais
je ne trouve pas, non, bien sûr, c'est clair. Mais qu'est-ce que la normalité, de toute manière?
C'est clair. C'est contre nature. Voilà.
C'est contre nature, c'est ça. Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est le côté. Il faut montrer aussi que c'est normal.
Que tout est valide.
Que tout est valide. Voilà. Que c'est. Ouais, que je sais pas, c'est normal.
Je pense que l'époque, parce que du coup, donc, là, j'ai regardé, c'est une histoire qui a été porté à l'écran en 99, une histoire qui s'est passée en 93.
Oui.
Et je pense qu'aussi à l'époque, c'était aux États-Unis, juste montrer que les personnes trans existent, et même encore plus que les hommes trans existent. Parce que en soi, dans l'image, un peu partout dans le monde, de toute façon, en général, les mecs trans sont souvent plus oubliés et sont moins visibilisés que les meufs trans. Et rien que, par exemple, au niveau de ce qu'on connaît au niveau de l'histoire de Stonewall, les personnes les plus connues, en général, vont être Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera. Mais il n'y avait pas que des femmes trans qui étaient à Stonewall, quoi.
Il y avait des gays.
Il y avait des mecs trans.
Il y avait des personnes non-binaires. Il y avait des dragues.
Et du coup, ouais, je pense qu'il y avait un peu ce... Je pense, en tout cas, le raisonnement de la personne qui a réalisé ce film, Boys Don't Cry, c'était peut-être aussi juste d'apporter une visibilité à d'une la cause trans, et en fait juste au fait que les mecs trans existent, là où pourtant dans l'imaginaire américain c'était mais non, ça n'existe pas.
Du coup, moi, ça me fait penser. Je ne sais pas si vous avez vu Lawrence Anyways ici.
Je crois que tu es la seule.
Je suis la seule. Ouais. Je peux vous présenter très vite fait ce film, si vous voulez, parce que ça va me permettre de poser une question, d'engager une discussion sur un de ces sujets. Si je retrouve. Je ne retrouve pas, c'est pas grave. Le film, donc, Lawrence Anyways, est réalisé par Xavier Dolan. Ouais. Avec une tripotée d'acteurs dedans, avec Monsieur Poupeau, je crois, qui
ça,
joue le
Poupeau, Suzanne Clément,
c'est ça, qui joue Fred,
Chokri, je crois que c'est comme ça, Nathalie Baye, bref,
Nathalie Baye, oui,
Nathalie Baye,
l'ex-femme de Johnny Hallyday, voilà. Voilà, petit fun fact. Oui, et donc ce film, on suit Lawrence qui fait une transition dans les années début 90, qui est une prof d'université de littérature. Et donc on la suit dans sa transition. En tout cas, ça, c'est le synopsis. Mmh. Sauf que moi, pour avoir vu et revu le film, qui est très bien, je vous conseille d'aller le voir. Ça ne parle pas de ça. Enfin,
c'est pas autour de ça.
Non, c'est un sujet. Il est présent dans le film, effectivement, ça en parle un peu, mais le sujet principal, c'est son histoire d'amour avec Fred, qui est magnifique. Et en fait, à l'époque, je me disais, mais ça, c'est génial, c'est enfin un film où c'est pas vraiment un sujet, où on parle d'autre chose. Et en même temps, je me dis, mais il y a la lutte. Et ce film-là présente une vision des années 90 pop et édulcorée avec la musique utilisée, avec même la mise en scène. Et aussi critique qui a été faite donc en 2011 ou 2012 lorsqu'il est sorti.
2012.
C'est le fait qu'il n'y ait pas d'actrice trans pour jouer le rôle. Et moi, à l'époque, ça ne me choquait pas. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut qu'il y ait une inclusion, une égalité dans les boulots et d'acteurs, que ce soit pour toutes les femmes, trans y compris, tous les hommes, trans y compris, toutes les identités. Et du coup, je comprends ce combat-là. Et en même temps, dans un monde parfait, en fait, je pense au théâtre et à plein d'autres choses, on peut jouer qui on veut. Du coup, j'ai un peu cette nuance de me dire c'est chiant, mince, c'est chiant pour la visibilité, et en même temps tout le monde a le droit de jouer. Enfin, je sais pas où j'en suis par rapport à ça. Je sais pas votre avis, vous.
Je trouve que par exemple dans un film comme Boys Don't Cry, qui était dans les années 90, lui c'est acceptable que le personnage principal, s'il est trans, soit joué par une personne qui n'est pas trans, parce que voilà, c'est l'époque. Déjà, juste d'avoir un film sur un personnage trans, c'était waouh. Mais c'est vrai qu'arrivé en 2013 ou 2012, arrivé dans les années 2010, il y a des acteurs et des actrices trans sur le marché,
Il n'y a pas
sur le marché
avec son petit ami là. Je pense qu'il y en a même au Québec puisque bah, Xavier Dolan est québécois. Hein. Donc c'est vrai que c'est regrettable quoi. Mais après bon, je me dis que comme on... Wow, le bruit, là.
C'est ce fameux siège.
Comme c'est un film qui, de ce que j'ai compris, se déroule sur 10 ans.
Sur 10 ans, ouais.
C'est peut-être aussi bon, un peu plus compliqué entre guillemets. Mais c'est vrai que bon,
il y a des make-up artistes.
Ouais, voilà, c'est pas impossible quoi. Mais après, bon, je me dis 2012, ouais, les make-up artistes, ça aurait été plus Ursula et un peu moins oui. Femme trans, prof de français vrai. Ou je sais pas quoi de tous les jours.
Ouais, parce que moi en fait, je me disais, mais il n'y a pas besoin d'être forcément gay pour jouer un gay. Et il n'y a pas besoin, enfin, je pense à des actrices lesbiennes. Comment elle s'appelle, celle qui joue dans Hannibal? Jodie Foster. Bon, elle n'est pas cantonnée à des rôles que de lesbiennes, oui. Tu vois. Et c'est un peu cette nuance-là.
C'est un peu c'est l'antithèse de Natasha Lyonne.
Oui, effectivement. Que j'aime beaucoup
aussi. La plupart des rôles lesbiens, c'est elle, et puis au final, elle est hétéro.
Yes. Bah oui, et du coup, moi, je me dis, bon, il y a peut-être une nuance à apporter, il y a peut-être... Y avait peut-être de l'inclusion, plus d'inclusion pour tous les rôles, et que les femmes trans n'étaient pas que cantonnées au rôle de femmes trans, qu'elles peuvent jouer aussi, des femmes cis, et pour les mecs trans, pareil, enfin, il y aurait peut-être... pas ce genre de débat en fait encore
oui, tout à fait,
en 2025.
Bah, c'est justement cette
les autres.
OK, j'espère les autres, vas-y.
Non mais je vais juste faire une remarque, c'est que en vrai pour jouer des par exemple là en l'occurrence une meuf trans, on peut très bien prendre une meuf cis qui a des traits androgyne quoi.
Oui.
On
peut oui,
prendre un mec cis pour jouer.
On aurait pu prendre Josiane Balasco.
Exactement. Ou vu l'époque Johnny.
Oui, oui. Ça y est, ça part en couille.
C'est que le début.
C'est que le début. Voilà, c'était juste ma remarque, peut-être mal amenée, sur Lawrence Anyways.
Non, forcément, mal amenée. C'est bien d'en parler, justement.
Ouais, mais en fait, c'est vrai que c'est des questions que tout le monde peut avoir, quoi. C'est vrai qu'on en parle souvent avec des potes. On se dit, oui, c'est vrai, tiens, pourquoi Et bon, voilà.
Bah, c'est sûr que. En soi, enfin, pour revenir au truc de années 2010, enfin face aux années 90, ça le fout légèrement plus mal que un cinématographe queer dans les années 2010 ne caste pas une personne trans pour un rôle trans quoi.
Ça,
si c'était voilà, si c'était un mec hétéro cis ou enfin une personne cis qui n'est pas dans la communauté qui fait un film et qui y pense pas, ok. Mais bon, j'ai envie de dire, enfin, voilà. Quoi.
C'est pas comme si il en manquait des personnes trans sur le marché de l'acting. Enfin, il y a quand même.
C'est vrai que par contre, au Québec, moi, je.
Après, pas. Oui,
mais après, bon.
Même en France, quoi. C'est pas inexistant. Parce qu'il y a des personnes. Bah, Nathalie Baye n'est pas québécoise et pourtant, elle joue le rôle d'une québécoise. Tu vois. Donc, c'est pas comme si on aurait. Il n'y a pas d'acteur, quoi. Et d'actrice. Ok, bon, et du coup, avant la petite pause, est-ce que vous avez vu Petite Fille ici? Non plus, il n'y a
fille.
Que moi. Non.
Petite Fille, c'est possible que tout ça.
C'est un documentaire.
De 2020 et quelques.
C'est ça, de 2020 de Sébastien Lifshitz avec Sacha, donc une petite fille trans, et Karine, sa mère, qu'on voit le plus souvent le long du documentaire. Et donc, on suit Sacha dans sa vie quotidienne, ses rendez-vous médicaux et ses difficultés à être acceptée à l'école. Je lis le synopsis. moi, j'ai eu un problème avec ce film en le visionnant. Alors, j'ai chialé ma race tout du long parce que c'est très émouvant, parce que c'est un docu Arte, donc on se prend vite au montage, à l'émotion, à ce genre de choses. Donc ça veut dire que c'est bien.
C'est le but.
Avant de rentrer dans le cliché. mais je trouve que le film a mal vieilli dans son point de vue très hétéronormé et cisnormé, dans le sens où, pour cette petite fille, les seules inquiétudes des parents qui sont, je pense, légitimes pour tous parents qui ont peur, c'est le futur de leur fille, qu'ils acceptent, hein, il n'y a aucun problème, elle a 7 ans, je crois. Le futur médical. C'est vraiment la deuxième chose qui vient. Et l'acceptation ensuite sociale. Bon, c'est les trois piliers, mais en fait, j'ai eu tout le long avec les rendez-vous médicaux, comment c'est montré, la distance qu'il y a avec les médecins, comment les médecins parlent de la transition, de la puberté, des choses comme ça, je me suis dit, mais en fait, faut que ce soit dans un moule, quoi. Et faut qu'il y ait des clichés qui soient respectés de si t'es vraiment une petite fille, d'où le titre du film, hein, il faudra à 12 ans prendre des bloqueurs et des machins et des bidules, ouais. Parce qu'il faut surtout pas que tu ressembles à un garçon. Enfin, c'est.
C'est presque endoctrinant.
Je caricature presque, mais ouais, tout le long, et c'est une vision vraiment 6 de la transition. Et pas à un seul moment, on a vraiment le point de vue de cette petite fille. On l'a. D'assez loin en fait pour les plans de coupe et des choses comme ça, mais on n'a pas vraiment son ressenti, sa vision, parce que en fait une transition c'est pas forcément quelque chose qui doit aboutir à quelque chose, c'est peut-être c'est pas obligatoire, il y a pas besoin de médicaments forcément, enfin je sais pas si vous voulez m'expliquer mieux que moi là-dessus, mais en tout cas au cinéma j'ai l'impression qu'il y a ce truc là de moule à respecter, de cases à cocher pour les transitions, quoi.
J'ai peut-être une question, puisque tu disais que peu de fois on avait l'avis de la jeune fille dans le documentaire. Tu es en train de me dire que du coup, c'est que quand, même si c'est centré autour de son histoire, son quotidien, etc., on lui parle pas, on lui demande pas ses ressentis, on lui demande pas ses émotions, ces trucs comme ça.
Alors si, on lui demande quelques trucs, mais c'est ça dure à chaque fois 30 secondes, le truc doit durer 1h30.
Ouais, il dure 1h23.
Donc il y a peut-être 5 fois 30 secondes où on l'entend vraiment parler.
Ouais, super.
En fait, j'ai l'impression que c'est un docu un peu transmédicalisant, dans un sens. Enfin, de justement avoir ce...
Un point de vue médical.
Est-ce que tu peux expliquer transmédicalisant, peut-être, pour les gens qui écoutent?
Des personnes transmènent, en tout cas dans mon... de ce que j'ai pu lire et croiser malheureusement, des personnes transmettes vont être des personnes cis ou trans, mais qui estiment que être trans c'est devoir faire des procédures médicales ou prendre des médicaments, donc que ce soit du coup prise d'hormones, mais du coup aussi
possiblement
des opérations de chirurgie esthétique, des opérations de réassignement, enfin au lieu de juste
accepter de ce
voilà et puis en fait juste parce que certaines personnes trans font juste une transition sociale, donc c'est-à-dire vont pour leur transition seulement se faire connaître sous leur nouveau prénom, sous leur nouveau pronom, et se contenter d'un en fait, et du coup les personnes transmèdes seraient des personnes qui vont leur dire « Ouais, mais non, mais si tu fais seulement ça, t'es pas vraiment trans, en fait. »
Et c'est ça qui est vachement, je trouve, dans les films. Encore aujourd'hui, on va marquer peut-être une courte pause après et parler d'Emilia Pérez, du coup.
Ah bah là,
il y aura des choses à dire.
Nous aurons des choses à dire, mais ouais, moi, je trouve qu'il y a vraiment ces injonctions-là dans les films, en tout cas, quand je pense à Lawrence Anyways, où la première chose qu'elle veut faire, c'est vraiment se maquiller. Elle se fout en soutif dans les toilettes. Bon, j'ai trouvé ça un peu mindfuck, quoi. Alors, c'est peut-être, y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, le mal-être, la souffrance, mais le montrer de telle manière, c'est, je trouve, ridicule, peut-être même bête et méchant. J'irai pas jusqu'à bête et méchant parce que le film ne l'est pas, mais je le sens comme ça des fois.
Mm-hmm. Voilà.
Je sais pas. Ok. Emilia Pérez, Athéna, toi, tu l'as peut-être pas trop vue.
J'ai vu beaucoup d'extraits parce que c'était partout. Je ne me suis pas résigné à le regarder. Mais bon, j'ai l'histoire, le topo du truc et surtout plus ou moins toute la stratosphère qui a eu autour du film, quoi.
D'accord. Bon, on va marquer une courte pause. Est-ce que, du coup, je parlais de Lawrence Anyways, vous voulez écouter un peu la BO ou vous voulez continuer sur Boys Don't Cry?
Faut diversifier un peu
les choses. On va passer sur Lawrence Anyways et après ça, je vous mettrai un petit court extrait de musique qu'on retrouve dans Emilia Pérez. Et ce sera à
la chanson de l'année.
C'est ça. La chanson, c'est celle-là?
J'ai pas dit la meilleure chanson de l'année.
Ah,
hein.
Non, mais ok, et... non, mais y a pas de souci.
Bonsoir.
Du coup, ce sera à vous de me dire quand couper cette horaire.
Okay.
Allez, on se retrouve tout de suite après sur Fréquence Mutine.
Thank you. Hello, very nice to meet you. I'd like to know about sex change operations.
I see. Men to woman or woman to men.
Man to woman.
From penis to vagina. Is it for you?
For me?
What would you like to know about it, mother?
Merci à Thomas d'avoir coupé cette horreur.
Oh wow. Oh,
vous wow. Vous l'aurez compris, on parle d'un film français. Vous connaissez mon amour pour les films français.
Évidemment.
Évidemment. Non, il y en a des biens quand même.
Il y a quelques-uns quand même.
Not all French movies, please. Emilia Pérez, donc. Emilia Pérez et... Pérez.
Ouais, pour pouvoir.
Pérez. Je parle en breton.
Si, caliente. Emilia Pérez. Yes. Réalisé par Jacques Audiard l'année dernière avec donc Carla Sofia Gascon qui joue Emilia Pérez, Zoé Saldana qui joue Rita et Selena Gomez qui joue Jessie, qui est la seule qui se récupère un peu en chanson, ce qui n'est c'est une déformation professionnelle, je pense. Donc on suit. Attendez. Alors j'ai fait un copier-coller du du synopsis parce que c'est hilarant pour vous montrer à quel point ce film avec une actrice trans est un film qui est en avance sur son temps. Ah oui, il faut que je retrouve mes fiches parce que pour une fois j'ai tout préparé comme il fallait. Voilà, synopsis. Rita, avocate engagée par un baron de la drogue pour organiser sa disparition afin qu'il puisse devenir la femme qu'il est vraiment. Wow. Réaction à chaud.
Dommage.
Film français.
Mauvais, dommage.
Le synopsis sur Wikipédia est légèrement mieux. Vraiment très, très légèrement.
Ouais.
Quoi.
Mais après, c'est WikiWoke. Non, aujourd'hui, c'est ça. C'est d'après les Américains. Non, mais on en est là, quoi.
Dis-le quand même pour savoir si...
L'avocate Rita Moro Castro est spécialisée dans la défense de criminels. Un chef de cartel mexicain en fuite... Son nom est trop long. Le charge d'organiser le simulacre de son décès ainsi que sa chirurgie de réattribution sexuelle pour vivre en tant que femme la vie dont Manitas, donc.
Pardon, mais j'ai le sketch
a toujours rêvé. Tournant le dos à son passé, la désormais nommée Emilia Pérez répare le malheur qu'elle a causé dans le passé en tant que Manitas en fondant une association d'aide aux victimes des cartels.
Oui. Alors, je vous laisserai réécouter le replay. Je l'avais pas dit à l'époque pour pas trop choquer. J'avais dit que j'étais parti déjà de la salle parce que ça m'avait
bien saoulé.
Ennuyé. Il y a un auditeur qui nous a appelé et qui m'a dit la même chose. C'est que c'est les montagnes russes et on se fait quand même un peu chier. Donc merci à lui pour son avis parce que je tiens à peu près le même et je me suis barré peu de temps après cette scène à l'hôpital justement où c'est un peu Monsieur et Madame Patate échange des organes et que. Je l'ai senti comme ça, je me suis dit d'accord, en fait une transition c'est qu'une chirurgie, on en parlait tout à l'heure sur la médicalisation. Ouais. Et c'était que du cliché sur cliché sur cliché sur cliché. Alors si on oublie ce que l'actrice principale a fait, rien ne va dans le film. La première scène, c'est vraiment ce qui m'a fait tenir, c'est la première scène de chant où je me suis dit « Waouh, la mise en scène quand même, elle envoie du pâté ». Mais c'est ce que je dis à chaque fois, c'est pas l'emballage et l'enrobage qui fait que le film est bon, tout simplement.
Bah, un caca emballé est toujours un caca. Hein.
Exactement. Et en plus, le dead name d'Emilia, c'est Manita. Ou Manitas. Et pour moi, Manitas, c'est un sketch Manitas de la Bitas sur Canal. Voilà, j'ai fait remonter un souvenir. Non.
Oh non, juste le...
Voilà, ouais. Et c'est un sketch de Cad et Olivier. Ouais. Qui est très beau.
Fait, qui serait sûrement trop beau que pour Bolloré.
je pense. Voilà. Et du coup, moi, je pensais à ça tout le long du film. Et quand il y a eu la scène de l'hôpital, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. En fait, ça accumule cliché sur cliché sur cliché. Et c'est de là d'où nous est venue en fait, l'idée, après l'émission, de faire un débat autour de ces sujets-là. Pas que trans, d'ailleurs.
Orientation LGBT, oui.
Voilà. Parce que c'est quelque chose. Alors déjà, on n'était pas armé forcément au niveau des termes. Là, je viens de dire dead name, mais dead name, comment expliquer ça? Et pareil, le synopsis, Manitas nanana change pour devenir machin. Là aussi, ça pose problème, mais je pense que le meilleur moyen, c'est d'éduquer les gens, de leur expliquer pourquoi. Donc, je ne sais pas, vous, si vous avez une critique à faire à tout ça. Et même si toi, tu as vu des extraits beaucoup, Athéna.
Ouais, ça passait un peu partout. Et puis, comment dire
Enfin, je suis beaucoup quand même de gens aux États-Unis, surtout des dragues. Et ouais, là-bas, c'était un tollé. Enfin, même en dehors de l'aspect de film français qui se passe au Mexique avec des personnes qui sont vraiment pas beaucoup mexicaines et où il y avait tout ce côté problématique, mais même juste sur les problématiques trans, ouais, les dragues américaines n'étaient pas contentes. Enfin, c'en est devenu un running gag.
Drag et trans ou juste drag, t'as eu des échos
Certaines personnes drag qui sont des personnes trans en même temps, on en parlait, oui, pareil, enfin, c'était, ouais, ça a été un tollé, quoi. Et du coup, bah, c'était, en fait, c'était au point de se moquer du film parce que
C'est peut-être devenu un token d'extrême droite, en fait, cette chanson.
Prochaine projection à la Maison Blanche, j'imagine.
Ouais, et donc, ouais, toi, à Brest la Trans, il y en a qui l'ont vu et qui étaient à peu près aussi énervés ou déçus ou,
Eh ben, je sais pas si les personnes l'avaient vu. En tout cas, quand tu nous as envoyé le mail d'invitation, t'avais juste marqué après le visionnage d'Emilia Pérez, on aimerait faire une émission débat. Et les premières réactions des gens, c'était « Mais Emilia Pérez, c'est nul, on n'a pas envie de parler que de ça, quoi.
» Ah oui, non, mais c'était...
Le débat va être
donc...
très court.
Ouais, c'est ça, très court.
En vrai, non, les personnes étaient vraiment...
Hostile, enfin, pas hostile, mais réfractaires à ça,
ouais,
quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en tout cas, le film leur avait pas plu, quoi. Moi, j'avoue que j'ai pas trop... Enfin, je suis pas tant de personnes américaines et tout. Et les seuls commentaires que je voyais sur ce film, c'était genre... incroyable, super bien fait et tout.
Bah, il a eu une tripotée d'Oscars aussi.
Bah ouais, c'est ça. Et c'est du coup, je voyais ça d'un côté. Et en parallèle, je voyais quand même plein de personnes qui sont soit d'origine mexicaine, soit qui sont mexicaines, qui disaient en fait, il est juste horrible. Le Mexique, ça ressemble pas du tout à ça. Les personnes mexicaines sont pas du tout comme ça. C'est les vieux films jaunes... genre
avec un filtre sépia, ouais,
les fameux filtres jaunes pour dire donc, pays chaud,
c'est ça. Ok, ouais, ben c'est dommage parce qu'en plus, ben justement, l'actrice c'est bon, une fois c'est une actrice trans.
pour le coup, c'est quand même une actrice trans que j'aimerais ne jamais revoir de ma vie, hein. Ouais, tout le reste de son personnage,
moi en fait je me suis dit, mais en sortant, enfin bon, je n'ai pas fini le film. Je peux pas avoir un avis jusqu'au boutiste par rapport à ce film. En tous les cas, en sortant là, je me suis dit, mais enfin, n'importe quelle personne concernée par la question n'irait pas jouer un truc pareil. Ça dessert toute cause possible. Enfin, je sais pas. C'est comme bon, on va pas en parler ce soir, mais on va pas en parler ce soir. Ça parle de Fanny Ardant. Je n'ai pas envie. Mais dans tous les cas, oui, je me suis dit, bah, c'est complètement con, en fait. C'est comme Hélène Dégénérès qui devient complètement conne et méchante et qui fait passer toutes les lesbiennes pour des acariâtres aigris, quoi.
Alors, je sais pas si elle est devenue plutôt que juste elle a montré ses vraies couleurs.
Ou Muriel Robin.
Ah, voilà.
Je pense que. Enfin, je pense à cette. Meuf trans très connue qui vient des États-Unis, qui est richissime.
Fille d'Elon Musk ?
Non,
si seulement.
C'est elle qui est dans le clan, tu sais. Kardashian.
Kathleen Jenner ?
Je connais pas. Ah oui, celle qui a tué quelqu'un ?
Oui, en voiture. Okay, ouais.
En voiture.
En voiture.
Oui, oh, waouh !
Elle a tué quelqu'un en voiture.
Il y a un épisode de South Park.
En plus d'être fan de Trump,
c'est ça. Et je pense que. Il y a un moment où le. La discrimination de. Enfin, les difficultés dans la vie du fait d'être trans sont effacées par d'autres.
Par peut-être pas la bourgeoisie, mais par avantages. Enfin, oui.
Oui, c'est ça. Les discriminations que les personnes peuvent subir sont effacées par les bénéfices qu'elles reçoivent de leur place sociale, quoi. Ouais. Et donc, être actrice peut effacer le fait de jouer dans un film qui est en vrai pas ouf du tout, quoi.
Parce que je sais, Caitlyn Jenner, elle a tué quelqu'un. Ça, j'ai vu ça dans South Park, c'était... Bon, c'était marrant. Non, mais voilà, c'est... Et
d'accord.
Après c'était il y a un an ou deux, elle avait fait tout un truc sur le sport, les femmes trans dans le sport, en disant que c'était... Il y avait un désavantage, et elle avait dit ça. Le lendemain, elle était en championnat de golf catégorie femme. Donc c'est ce que tu parlais en disant avantage déjà, peut-être pas, oui, avantage, j'ai un autre mot qui j'arrive pas à le faire venir, mais
privilège.
Privilège, et en plus hypocrisie totale dans le vécu. Bon, du coup, Emilia Pérez, c'est 0 sur 10, quoi.
Si on peut aller dans les points négatifs, même.
Ouais. Ouais, c'est dommage parce que c'est un film récent. Non, mais.
L'année dernière, c'est... quoi.
Oui,
l'année dernière,
mais c'est genre novembre, octobre.
Après, là, je viens de remarquer que sur ma liste, c'est que des mauvais films. parce qu'après, il y a Dallas Buyers Club. Mais si vous avez des bons films aussi, on peut complètement parler
alors,
de ça.
Pour le coup, je connais plus de bonnes séries, en tout cas de bonnes représentations en série. Mais
dis-nous.
En film, je t'avoue que pas trop.
Parle-nous de séries un petit peu.
Une bonne représentation de femmes trans en série, c'est la série Heartstopper, donc adaptée des comics. De bande dessinée Heartstopper, du roman graphique, voilà. et dont d'ailleurs un film pour clôturer la série a été annoncé. Et du coup, dedans, on a Elle, c'est son nom, enfin après, c'est en Angleterre, donc j'en veux dire, Elle peut être un prénom là-bas, j'imagine, qui du coup est une jeune femme trans qui est au lycée, et dans la saison 1, qui en fait fait sa rentrée dans le lycée pour jeunes filles, parce que là-bas, c'est séparé apparemment par genre. Et qui, du coup, appréhende un peu justement le fait de devoir se faire de nouvelles amies, de ne pas se faire outer. et voilà, on a un peu tout ça. Et en fait, c'est pas une vision innocente, mais c'est vrai que c'est une vision... en tout cas, c'est une bonne représentation. Elle est jouée par une actrice trans, qui est en plus ado, attention, parce que c'est une série pour ado, et elle est jouée par une ado. Ça qui est beau aussi.
Important après.
Et puis, justement, on sait que sa transition, elle n'est pas non plus si facile. Mais en même temps, on la voit avoir des moments heureux, on la voit avoir une relation dans le respect. Et surtout, où tout problème qu'il pourrait y avoir est discuté et justement. Bien
c'est
discuté,
sain, quoi.
C'est sain, c'est ça. Okay. Voilà. Et dans la saison, je crois que c'est la saison 2. Elle a quelques difficultés parce que comme c'est une artiste, elle a une exposition, un truc comme ça, et on l'invite à la radio pour discuter de base normalement de ses œuvres et tout, et en fait c'est entre guillemets un piège pour qu'elle parle de sa transidentité, gnagnagna, tout ça, et en garde pour alimenter le débat, et justement là dans la série, c'est montré que cette sorte de piège qu'on lui tend, c'est pas bien, quoi. Et justement, ça c'est pas ça ridiculise, mais ça montre que justement, au-delà de des personnes trans qui sont bien représentées, qui ont une vie, qui ont, voilà, quoi, ça montre aussi les personnes transphobes et le débat transphobe, c'est mauvais, quoi.
Comme toute discrimination, je pense. Ouais. Et alors, avec Oal, lorsqu'on s'est vu pour parler de tout ça, tu m'avais parlé de Umbrella Academy.
Oui.
Ouais, carrément. Wow. Et il y a Elliot Page qui joue dedans, qui du coup a commencé la série avant de faire son coming out et qui donc jouait un rôle de meuf dans la série. La série parle pas du tout de questions de genre ou quoi. C'est
Ça vient des comics, ça c'est clair. Umbrella Academy, oui.
Ils sont 7 ou 8.
Ah pardon.
7, je crois.
Bref, beaucoup de frères et sœurs qui sont les personnes qui peuvent sauver le monde. Et spoiler, c'est aussi les personnes qui détruisent le monde à chaque fois. et donc, le personnage que joue Elliot Page, du coup, transitionne en même temps que l'acteur a fait sa transition. Et en fait, sa transition, elle est trop, trop bien faite. Ses coming out, ils sont incroyables auprès de ses frères et sœurs et tout. Et même auprès de son père, qui est un personnage exécrable. Et genre, c'est trop intéressant qu'il n'y a pas du tout un rôle de parent dans cette série. Et qui, c'est ultra intéressant la façon dont c'est amené.
Ça naît naturellement, en fait.
C'est ça.
C'est ça qui fait
et
que
en fait,
ça...
La partie ce personnage est trans dure peut-être une demi-heure dans un épisode.
Oui. Okay.
Sur un épisode de 50 minutes. Et,
donc ça prend pas toute la place.
C'est ça, en fait, ça permet juste de dire c'est toujours la même personne qui joue et c'est toujours le même rôle. C'est juste que le rôle a changé parce que l'acteur a changé, quoi.
C'est plus une volonté peut-être des studios pour les téléspectateurs d'expliquer, en fait, parce qu'il y a toujours ce besoin d'expliquer.
Ça sera toujours le cas pendant un long moment, je pense.
Ouais. Moi, en série que j'ai à proposer, mais qui se rapproche du cinéma parce que ça se termine par un film, je veux bien évidemment parler de Sense 8, qui parle beaucoup de relations empathiques, humaines et géniales, réalisées par les sœurs Wachowski, donc celles qui ont fait Matrix, et tout un tas d'autres films qui sont The Matrix, qui ont fait tout un tas de films aussi qui sont bien. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'ai juste une remarque sur les séries, justement, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de nuances et de gentillesse et d'empathie et d'humanité que on peut, il peut y avoir pour les films qui sont très binaires, en fait. Mmh. Et je constate aussi qu'il y a peut-être un manque de représentation des d'autres identités. Je pense aux personnes non binaires et à tout un tas d'autres types d'identité. Alors peut-être il y a ça dans Sex Education ou dans d'autres séries, je n'ai pas suivi toutes ces séries. et en film, je ne sais pas.
Je crois que Sex Education, c'est plus la non-binarité qui est abordée. Représentée. Et oui, abordée. Sinon, il y a Pause. Pause oui. De FX, qui est vraiment une super série, donc qui parle de la scène ballroom, donc aux États-Unis, à New York, dans les années 90, et qui parle du VIH, comme c'était une réalité à l'époque. Enfin, c'était les débuts. Et en fait, qui suit énormément de femmes trans, jouées par des femmes trans. Je crois que, si je me rappelle bien, donc c'est une série de Ryan Murphy. Et si je me rappelle bien, il avait fait en sorte que, bah, plus ou moins, la plupart des scénaristes, la plupart des personnes qui dirigeaient l'épisode, etc., en fait, autant du coup, genre devant et derrière la caméra, soient des personnes trans.
Ok,
les personnes concernées, ouais. Ouais, donc je crois que c'était un peu une grande première, entre guillemets, aux États-Unis, en tout cas, niveau série. Ouais, c'est une série géniale, vraiment très émotionnelle. Mais en même temps, je ne peux que la recommander. Je ne sais pas, par contre, où elle est disponible en streaming légal.
Mais streaming légal, c'est bien. Et puis, bah, sinon, en fait, vous débrouillez comme
ouais, quand c'est pas disponible, faire ce qu'il faut on faire se débrouille.
Pour, voilà.
Pour vite fait conclure, je dirais que qu'il y ait plus de nuances dans les séries, c'est plus compréhensible parce que les séries ont plus de matière à étendre leur œuvre et du coup plus de temps à pour pouvoir développer en fait le personnage. Ils peuvent apporter plus de nuances parce que les séries sont généralement plus longues qu'un film. Mais c'est vrai que pour le coup, pour des films, bah c'est, pour un côté restreint, on peut quand même faire mieux, je pense.
Je pense aussi. Bon, on va passer à un autre sujet, justement. On parlait de stéréotypes. Donc, on va parler des stéréotypes queer, notamment dans le comique et dans tout un tas d'autres films. Donc j'espère que vous reconnaîtrez l'OST qui va nous servir de pause et on revient dans quelques minutes. Voilà, à tout de suite.
Figaro, 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 son qua, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto fortissimo, son come il fulmine, sono il fortum della città, della città, della città, della città, della città. Abravo Figaro, bravo bravissimo, abravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il facotum della città, sono il facotum della città, della città, della città, della città. Got a brand new bag.
Vous venez d'écouter la fameuse OST de Mrs. Doubtfire, ce qui nous permet de parler un peu de films comiques, des films qui peuvent être stéréotypés ou
enfin,
pas.
Enfin, on va rigoler.
Enfin, ouais. On va rigoler. voilà, bah, moi je comptais commencer le segment par deux films, Mrs. Doubtfire, et sinon Gazon Maudit, au choix. Voilà, on revient toujours à Josiane Balasko ce soir. Ouais, c'est du, si vous voulez parler de l'un d'entre eux, je crois que tout le monde a vu Gazon Maudit, si je ne me trompe pas.
Non. Mais j'ai regardé encore une fois le Simnosis au cas où.
Ah bah,
si je l'ai peut-être vu, mais il y a tellement d'années, je n'en ai aucun souvenir. Quoi.
Vraiment un film de lesbienne, moi j'aime bien. mais justement, plein de clichés. Et en même temps, la fin fait que. Voilà.
En vrai, moi je l'ai bien aimé ce film. Hein.
Ouais,
bah, je l'ai vu il y a très longtemps, mais.
Bah, il est sorti en 1995, réalisé par Josiane Balasko. Réalisé et écrit par Josiane Balasko,
enfin,
quand même.
Enfin, le running gag.
Le running gag. Mais ça va prendre fin, du coup, ce soir, je pense. Je passerai à un autre acteur ou une autre actrice pour faire les, pour faire les tests de son. Il y a Victoria Abril, également, qui joue Loli, qui a été cancel après son rôle dans Gazon Maudit. Voilà. Oui.
Je crois qu'elle a été re-cancelled il n'y a pas longtemps. Donc,
Ah bon, bah, ça arrive, hein, je crois que c'est... Et puis Alain Chabat qui joue Laurent, un type exécrable. voilà, en fait, on suit du coup Marie-Jo, qui est une dépanneuse bien lesbienne, bien clichée. Donc, il faut imaginer en débardeur, sans soutif, les cheveux courts, mal épilés, très masculine, qui est un peu sanguine. Qui tombe par hasard sur Loli, qui est la femme de Laurent, du coup. Et il y a un coming out, en fait. Les deux se voient, ils se disent, mais en fait, on est faites l'une pour l'autre. Et c'est une belle histoire d'amour qui s'engage pour elle et une mauvaise histoire pour Laurent, qui est très jaloux, qui est un type exécrable, joué par Alain Chabat. Donc, on peut comprendre l'humour un peu d'Alain Chabat, qui je trouve bon.
Il a un humour bien à lui, Alain Chabat, on le reconnaît directement.
Ouais, et donc ça, maintenant c'est bon, c'est rentré dans la tradition, tout le monde connaît ce film, mais à la fin on se rend compte que Laurent, lui aussi, est homosexuel.
Le poignet voilà. Est cassé chez tout le monde.
C'est ça. Et donc moi, ce film, ben. On pourrait y mettre tous les clichés des années 90, tous les stéréotypes, dire que c'est vraiment dégradant, dire que les lesbiennes ne sont pas comme ça. Pour autant, bon, ceux qui vivent à Brest et qui vont au Tirnanoc, des fois, on en voit des...
Allez, ça balance. Mais
le thé
a été versé.
Mais j'en suis une aussi. Je me muscle et tout, tu vois, je suis musclé. Non, mais c'est débile. Mais ces clichés-là sont hyper importants aussi pour une communauté. Enfin, la bague au pouce pour les lesbiennes, c'est voilà, il y a plein de sketchs là-dessus. C'est les Subaru aussi. Enfin, on en revient au vroom vroom, Julien.
Ah, toujours.
Non, mais c'est vrai que les clichés sur les lesbiennes ne sont pas forcément tous faux. Enfin, moi et ma copine, on s'est mis ensemble au bout d'une semaine et on avait déjà emménagé ensemble 3 jours avant. Quoi.
Et vous aviez un chien déjà aussi.
Aussi le chien a emménagé avec nous 2 mois plus tard.
De toute façon, il faut dire que les stéréotypes sont basés sur des faits. Donc,
souvent.
Donc,
oui.
Souvent. Donc, bon.
Bon, après, Trump, il avait dit que certains mangeaient des chiens pour.
Bon, bah, hein, c'est okay. Pas
Trump, ça compte pas.
C'est juste pour te tanquiquiner.
Oh, tout de suite.
Oh.
Après, sur le côté vraiment esthétique de. J'ai oublié le nom. De Josiane Balasko.
Gazon Maudit.
Ah oui, sur son look,
ouais. Ouais. J'ai oublié le nom du personnage, en fait.
Ah, sur Marie-Jo.
Marie-Jo. Ouais. C'est que, bah, comme tu disais, ça vient pas de nulle part. Et les codes vestimentaires, notamment, sont quand même ultra importants dans les communautés queer. Notamment chez les lesbiennes et les gays, ouais. Où il y a eu vraiment un truc de communauté de pour pouvoir se reconnaître, on met des codes en place.
Les foulards, par exemple.
Ouais, les foulards chez les gays, par exemple. Ouais. Les bagues aux pouces, les trucs comme ça. Et donc oui, elle est très...
Seulement deux ongles coupés sur une main pour
elle est très caricaturelle, mais en vrai, c'est pas que des caricatures, il y a quand même des lesbiennes qui ressemblent à ça, quoi. On t'a perdu sur les deux doigts.
Ah, ça va. Je rigole sur les blagues, c'est rigolo.
Non, mais je fais des vannes ce soir parce qu'il faut alléger un peu.
Rassurez-moi, Gazon Maudit, c'est pas en référence à des poils pubiens.
Si. Totalement.
Gazon maudit. Okay. En fait, Gazon maudit chez les lesbiennes. En fait, c'est les lesbiennes. Le cliché de Josiane Balasko dans le film, c'est Pipa. Donc c'est Gazon maudit. Quoi.
C'est sûr que ça, comment dire, ça rend mieux que Ticket de métro maudit, quoi. Pécresse, là.
Ça aurait été Oh non, pas elle, s'il vous plaît. Non, censuré. Pas ici. Non, ben moi, ce film, j'ai bien aimé. Et encore aujourd'hui, il passe, quoi. Ça va. C'est pas. Au contraire, c'est pas si dégradant que ça pour les lesbiennes, ces communautés-là. Et ça montre, avec l'absurde que moi j'aime beaucoup de ces années-là et du, je dirais pas l'esprit canal, mais presque, de Chabat et de Balasko avec le Splendide. Il y a une absurdité qui est tellement drôle dans ce film où c'est pas réaliste et en même temps, on y croit et on se dit, mais oui, en fait, c'est ça, une engueulade, quoi. Et voilà. Et je vais faire l'instant Colombo, mais c'est vrai que moi, il m'arrive avec ma femme de faire semblant de me m'engueuler avec elle juste pour, juste pour m'amuser.
Oh oui,
voilà. C'est débile. Et ça m'amène à un autre film plein de stéréotypes, Mrs. Doubtfire. Mrs. ou Mr. Doubtfire. Non, il ne s'appelle pas comme ça, en plus, le
personnage. Madame Doubtfire.
Madame.
Je crois que c'est comme ça en français, de toute façon, Madame Doubtfire.
Madame Doubtfire.
C'est Madame Doubtfire.
De Chris Columbus.
Exactement. Merci. Et alors, moi, j'ai un très vague souvenir. Je crois l'avoir vu enfant. Je crois que c'est... quelqu'un raconte à ma place. Si quelqu'un qui l'a vu, raconte.
Un homme hétéro... voilà, on commence bien.
Six
genres, attention. Comédien de doublage. Donc, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, on aime les comédiens de doublage.
On les adore. Oui. S'il vous plaît, ne les remplacez pas par IA.
S'il vous plaît. Vraiment, vraiment comique. Et en fait, sa femme demande le divorce. Parce qu'il est trop laxiste avec les enfants, c'est un comédien, donc il n'arrive pas à être sérieux, quoi.
C'est elle la méchante et c'est lui le gentil, les bons gros clichés, quoi.
Et en fait, pour pouvoir rester dans la vie de ses enfants et en même temps garder un œil sur son ex-femme, eh bien, lui vient l'idée de devenir Madame Doubtfire. Une nounou, quoi, en clair, ouais, une femme à tout faire, slash nounou pour les enfants, pour la maison, et essayer de reconquérir sa femme, entre guillemets, comme ça.
C'est un peu Nanny McPhee avant l'heure, quoi.
Ouais, le maquillage de Madame Doubtfire était quand même un peu mieux. Pour l'époque, on va dire, quand même. Mais du coup, ouais, ce fameux, donc le personnage qui s'appelle Daniel Hillard, qui devient Madame Iphigénie Doubtfire. Et du coup, très. En fait, ouais, une femme d'une cinquantaine, soixantaine d'années, très. Une inspiration un peu anglaise et tout.
Acariâtre.
Je dirais pas forcément.
Vieille fille.
Ouais, vieille fille. Hein, très. Non, tu vas te calmer. Hein.
Alors ça fait très marseillaise. Oh, tu vas te calmer.
C'est magasin. Tu
te calmes.
Au pitchou.
Pardon.
Et en fait, ça reste un homme cis hétéro qui, entre guillemets, se met en drague, du coup, pour reconquérir sa femme, ses enfants, tout ça. Mais pour le coup, je trouve que on est quand même sur... un film qui est appréciatif, enfin qui est pas qui va pas non plus présenter le personnage drag comme vraiment déviant, c'est un homme vraiment prêt à tout pour
moi c'est un mec déprimé, famille, mais
oui bah après ah, j'ai envie de dire la plupart des comics sont déprimés, hein.
Il en est mort,
oui c'est vrai que c'est Williams.
Ouais,
Robin.
Moi en fait ce qui m'a toujours gêné avec ce film, c'est que c'est fait, alors il y a beaucoup d'humour mais il n'y a pas forcément de nuance sur chez les gens qui le regardent, entre drague, travestissement,
oui.
Et ces termes-là. Et c'est juste ça. Après, je ne sais pas vous ce que vous en pensez sur ces questions. Je pense qu'on peut rire de tout, mais que ces situations sont tellement irréalisables dans la vraie vie que, dans tous les cas...
En fait, c'est le côté... j'ai perdu le mot. Le côté... Enfin, j'allais dire surenchère. Genre, oui, comme tu disais, c'est une situation qui n'arriverait pas dans la vraie vie. Donc le côté... je vois Athéna qui
franchement, certains hommes hétéros sont très, très... ont de l'imagination, on va dire.
Non, mais c'est le côté, oui, comme tu disais, on peut rire de tout, mais surtout la situation fait très... prête beaucoup à rire. C'est surtout ça que dans ce sens-là oui. que...
Bah, la scène là, avec la tarte... ouais, bref, c'est toujours en tête. Hein.
Ça, voilà.
C'est quoi la scène?
C'est... je sais même plus exactement, mais c'est une scène où, du coup, Madame de Fire, pour... je crois que c'est justement Madame Newfire n'a pas encore fait son maquillage ou un truc comme ça. Et mais se retrouve face à un des gamins ou à l'ex-femme. Et en fait, pour ne pas être découverte, se tarte la gueule pour empêcher de voir les traits en dessous. Quoi. Mais c'est très. C'est pas un film sur le drag ou sur. C'est pas un film avec un point de vue queer. C'est un film comique. Qui incorpore un personnage qui, sans le vouloir et pas pour début de divertissement, se met en drague.
Mais c'est plus voilà, proche quoi. Du clown qu'autre chose.
Ça.
Quoi.
Ouais, donc, clairement, okay. Après, beaucoup de dragues sont des clowns. Hein.
Ah ben non,
certaines
ça
en ont même le maquillage.
Rien,
ça. Ouais, ça. Certaines en ont même le maquillage. Quelquefois. Et... Mais,
tu veux
mais
pas voilà. donner de nom, c'est ça?
Non, bah, certaines s'amusent et voilà.
C'est bien.
Mais c'est vrai que bon, c'est un film qui, malheureusement, a sûrement dû créer une certaine. Comment dire? Une certaine confusion entre drague, travestissement, transidentité. D'accord. En tout cas, pour l'époque où il y avait pas forcément de documentation, tout ça. Enfin, c'est. C'est début, milieu années 90.
Il n'y avait pas la terminologie non plus, parce qu'à l'époque, il y avait Gender Trouble avec Judith Butler, où elle se débattait encore avec les termes. Voilà.
Et je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Je pense que ce film il a été fait parce qu'il y a une confusion qui est faite entre drague, travestissement et trans, et que du coup, ça fait rire les gens, parce que... Bah, eux, les personnes trans, ils les voient comme des hommes qui se déguisent en femmes, quoi. Et que, du coup, plutôt, ça vient alimenter ça que provoquer le doute, quoi.
Donc, c'est de la misogynie, en fait.
Toujours.
Intrinsèque, c'est un truc de misogynie.
Je pense qu'on peut parler, on va dire des gros mots, de transmisogynie.
Mmh. C'est un gros mot, transmisogynie.
Les gros mots, j'appelle les gros mots les mots que... les moldus ne comprennent pas.
Ah,
ok. Et transmisogynie, c'est les oppressions que subissent en particulier les femmes trans, enfin les transfemmes en général, qui réunit la transphobie et la misogynie. Et je pense que ce film, il vient de là, de la transmisogynie qui avait lieu notamment à l'époque, mais qui est toujours aussi présente, quoi. Un mec qui ressemble à une meuf, c'est drôle. Et du coup, on va en faire un film extrapolé à fond et avec des traits ultra grossiers et tout, quoi.
Ouais. Et ce qui est assez fou, c'est que Madame Doubtfire, c'est pas le seul film des années 90, mais en général, où Robin Williams était et qui, en fait, où la prémisse était qu'on suivait un personnage qui faisait du drag. Enfin, comme ça. Parce que, en fait, Robin Williams a aussi été dans deux autres films qui suivent du drag. Dans Tout Mon Fou, Merci, comment c'était déjà ? Je ne sais plus le reste du titre, mais Tout Mon Fou, où il joue le mécène d'un des personnages drag du film. Et il joue dans l'adaptation américaine de La Cage aux Folles. Dans Birdcage.
Mais est-ce que tu veux qu'on en parle de celui-là ou pas, tant qu'on y est ?
La version américaine ?
De Cage aux Folles ?
Bah,
La Cage aux Folles, oui, carrément.
Moi, je pensais faire une petite pause, bah, à moins que vous... Ouais.
Après la
petite pause.
Bah, après la pause
parce que justement, je comptais parler de drague. Ça parle, je crois, la cage au folle un peu de drague aussi. Avec Chouchou. Et en fait, donc, j'ai cherché des musiques, tu m'en as envoyé, mm-hmm. Athéna, et elles sont toutes elles sont vraiment excellentes, en fait. C'est un condensé des années 80, j'ai bien envie de les mettre depuis tout à l'heure, je les vois sur mon écran, là. Alors, j'ai C'est la Ouate, L'amour à la plage et une autre. Alors, c'est toi qui choisis.
Aou, tcha-tcha-tcha.
Ok, c'est parti pour L'amour à la plage. Et on revient tout de suite sur Fréquence Mutine. Fait chaud, c'est l'amour à la plage, super, on en profite, profitez du beau temps, mettez de la crème solaire surtout, ou sinon, allez au cinéma s'il fait trop chaud. On revient du coup pour parler des stéréotypes, et on revient avec une experte du drag à Brest, avec notre grande Athéna. T'as pas un autre surnom déjà, je ne me rappelle jamais.
Comme ça un autre surnom?
T'avais pas un autre surnom qu'Athéna?
Non, bah Athéna Brest.
Athéna Brest, quoi, c'est ça.
Oh là là, mais je suis Brest.
La fine Brest, si tu veux en anglais. Si tu veux.
Merci. Merci. Mais c'est bien parce que tu vas pouvoir nous parler de films français, américains, mm-hmm. peut-être australiens, qui sont qui ont parcouru un peu le globe depuis les années 70, depuis même avant avec la pièce de théâtre, qui est La Cage aux Folles. Moi, je crois, j'ai peut-être vu le premier français avec Claude Sérault et. Ça remonte de 78. Il y a eu une adaptation en pièce avec Clavier et Bourdon il n'y a pas si longtemps, dans les années 2010.
Que personnellement j'ai aimé.
Mais présente-nous cela, parce qu'en plus, tu travailles sur ça en ce moment un petit peu. Donc, je te laisse la parole.
Alors, du coup, La Cage aux Folles, donc oui, à la base, c'était une pièce de théâtre franco-italienne, il me semble.
Franco-italienne, oui. Je lis ça, en tout cas.
Enfin, c'est... Non, la pièce de théâtre est française, mais avec, c'était avec un acteur... Ah non, même pas. Non, c'était des comédiens français. Donc en 1973. Et le synopsis un peu, c'est que on a un couple homosexuel. L'un des deux fait du drag. Ils ont leur cabaret, du coup, dans le...
C'est Michou, quoi.
C'est un peu... Michou sur la Côte d'Azur, quoi.
OK.
Ils ont leur cabaret qui est dans le sous-sol de l'immeuble dans lequel ils vivent. Et du coup, on a l'un des deux qui est homosexuel, un peu propre sur lui.
BCBG un peu.
Globalement masculin, avec moustache incluse. Et puis l'autre, du coup, qui est la folle, qui du coup fait du drag et en fait est une drag queen clairement qui se rapproche plus de la retraite. En tout cas, c'est ce que voudraient les autres drags de leur cabaret, de La Cage aux Folles.
Elles sont jalouses.
Ouais, c'est un peu ça, elles sont jalousas. Charlotte, ça. Et puis, en fait, il se passe dans la pièce, dans les films, que celui qui est le plus masculin des deux a eu un enfant il y a pas mal d'années avec une femme, avant qu'il se mette en couple, du coup, avec son homme.
Ce qui arrive.
Et oui, malheureusement, des fois. Hein. Et... On est déjà trop d'humains sur la Terre. Okay. Et
des milliards. Bon.
Considérez l'adoption, pitié.
Et on parle de films.
Et ça. En fait, voilà, qui a eu un enfant et cet enfant, maintenant, c'est un jeune homme qui est tombé amoureux. Et il est tombé amoureux d'une femme dont les parents sont des gens qui sont politiques.
La fille, elle est blonde aux yeux bleus et son père, il est borgne. C'est pas... non.
Alors, de base, dans le film, la pièce, ils sont de droite, mais en soi, ils pourraient être d'extrême droite. Hein, mais bon, je sais pas qui va aller se marier avec elle, hein, honnêtement. Mais...
Julien, tu te dévoues, c'est...
Sauve
notre pays.
Allez, comme à la guerre.
Oh, allez, ça, ça y est.
Bon, allez, stop.
Non, mais du coup... Du coup, voilà, les beaux-parents du gamin sont, je crois que c'est un préfet, le père, un truc comme ça, préfet donc de droite, qui normalement est en campagne de réélection. Et, et du coup, le gamin demande à ses deux pères, ils veulent vous rencontrer, j'ai menti sur vous et j'ai dit que toi qui es drag queen, tu n'existes pas, que j'ai une mère et que toi qui n'es pas drag queen, tu es genre businessman. Alors que il possède le cabaret, quoi. Et du coup, le gamin, en fait, leur demande, Papounet, est-ce que tu peux disparaître quelques jours? Et papa, est-ce que tu peux paraître sérieux pendant quelques jours? Et il va jusqu'à retrouver sa mère, du coup, pour,
En fait, ils veulent former peut-être pas un couple, mais en tout cas des personnes normales, rentrer dans une case.
Oui, c'est ça. Et le fils, okay. pour ne pas voir sa relation partir en éclats, veut présenter une famille hétéronormée aux beaux-parents et à sa meuf. Et du coup, la folle... La drag queen se retrouve un peu mise sur le bas-côté, quoi. Et puis en même temps, la drag queen a peur que si son mari venait à revoir et recôtoyer du coup son ex avec qui il a eu le gamin, qu'il y a un petit truc, quoi. Et du coup, jaloux, éhonté, il est sans dessus-dessous. Donc c'est vraiment, ça donne des scènes de comédie vraiment géniales. Et il décide au final, au dernier moment, que non, je ne vais pas partir. Je vais me mettre en drague, me faire passer pour la mère du gamin et prier pour qu'il se dise juste que c'est une femme qui se maquille trop, quoi. Et ça donne des comiques de situation qui sont absolument géniaux, qui se terminent par notamment une des dernières scènes où le poteau rose a été découvert Et il faut exfiltrer le fameux préfet, le beau papa, via la cage aux folles. Et du coup, ils mettent un préfet de droite en drague pour qu'il puisse sortir de l'établissement, de l'immeuble, ni vu ni connu, devant toute la horde de journalistes.
D'accord. Alors moi, du souvenir que j'ai de ce film qui date d'il y a un moment, c'était justement comment toi tu en parles, et même le souvenir que j'ai, c'est ce souvenir de normalité, entre guillemets, du côté cabaret et ainsi de suite, où en fait c'est montré comme quelque chose de hyper naturel, et dès qu'on arrive dans ce cadre extérieur normatif de droite, bourgeoise, machin, là ça devient malsain tout de suite, ça devient très bizarre, on n'a pas l'habitude. C'est le seul souvenir que j'en ai. Et par rapport justement aux stéréotypes et ainsi de suite, comment toi, en ayant vu toutes les adaptations et ainsi de suite, tu vois le...
Les suites qui étaient abysmales. Enfin, le niveau était abysmal.
Et comment tu arrives à...
La version française, oui.
Comment tu arrives à voir, toi, du coup, l'évolution des stéréotypes ? Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce que c'est les mêmes ? Oui. Est-ce que l'humour est plus ou moins subversif qu'avant ? Est-ce qu'avant, il était déjà subversif ou pas ? Parce que... Est-ce que c'était de la moquerie, tu vois ? Enfin, je sais pas, j'ai plein de questions qui me viennent, là.
C'est vrai que c'est un film et une pièce qui sont très... le but, c'est de faire rigoler les gens, quoi. Donc les stéréotypes, ils sont à fond. C'est pas forcément le truc le plus fin au monde, mais en même temps, j'ai envie de dire, on parle de drague et le drague, c'est rarement très fin. Mais je trouve que c'est quand même un film qui est bien amené et où tous les personnages ont une certaine profondeur, quoi. Les personnages. Qui sont queer, les personnages qui, enfin le gamin, ils ont de la profondeur. Les seuls qui paraissent très superficiels et dont on se moque au final, ce sont justement les beaux-parents, ce sont le préfet et sa femme, qui sont très propres sur eux, qui sont très monodimensionnels, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais voilà, qui sont juste, voilà, ils sont genre, on peut les décrire en riches, bourgeois et de droite.
Définir des parents.
Et voilà, genre ils sont.
Mais là, on les met dans des cases, du coup. Mais c'est ça qui est drôle par le film. C'est que les drag queens qu'on met dans des cases, au final, elles en sortent par rapport... du coup, par rapport à ces gens-là, quoi.
Oui. Okay. Et non, c'est ce que... c'est un film que je trouve vraiment très intéressant et que je peux que recommander de regarder. Et d'ailleurs, il y a un... comment dire ? Il y a eu un documentaire, je crois, qui est sorti en... 2020, un truc comme ça. Je sais plus trop comment ça s'appelle, je vais aller vérifier. Mais du coup, qui suit un peu l'histoire de la cage aux folles, en tout cas, il me semble de comment le film a été fait, mais je crois même de un peu comment toutes les adaptations ont pu être faites. Mmh. Et c'est assez intéressant. Je l'ai vu, mais il y a plusieurs mois, donc je sais pas tout. C'est Merci Zaza, donc Zaza qui est le nom du coup du personnage de Drag Queen, la folle histoire de la cage aux folles. Et du coup, donc, ça parle de la question de la pièce de théâtre, sachant que oui, la pièce de théâtre du coup qui est sortie en février 73, parle de homosexuels, hein, drag queen, tout ça. Mais c'est à une époque où l'homosexualité était encore considérée par la loi française comme un délit et un fléau à combattre. Uh-huh. Et donc du coup, c'était dès le départ, en fait, la pièce de théâtre était très subversive comme ça, dans le sens où oui, on utilisait quand même des stéréotypes, mais à côté, on montrait que voilà, ces deux personnages qui sont deux mecs gays en couple,
ils ont
leur quarantaine et avec un des deux qui est drag queen, c'est des humains, ils sont entre guillemets normaux.
Enfin, c'est la normalité, encore une fois.
Voilà, c'est des personnes comme tout le monde, entre guillemets.
C'est des personnes de la vie de tous les jours qui vivent leur vie et puis.
C'est ça.
Puis voilà, ils ont une vie bien rondée. Rodé, oui. Mené,
rodé,
rangé. Rodé, merci, rodé.
Ils ont les points un peu de tout le monde. Par exemple, Zaza, son personnage, genre, justement, s'inquiète du fait de devenir vieux / vieille et de ne plus être en âge à se mettre en drague et à de la vedette du cabaret. Il y a son mari qui a un peu ce truc de... j'ai plus ou moins écarté la mère de mon enfant pendant... De la vie de mon enfant pendant toute sa vie parce qu'elle a été elle-même s'en est éloignée et que du coup, j'ai pas voulu la laisser revenir quand elle a voulu. Il y a plein de d'autres problématiques qui montrent que c'est pas
plus que du drag, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et au niveau des représentations par rapport aux réécritures, aux adaptations, ainsi de suite, est-ce qu'il y a peut-être des nouveautés, c'est pas nouveau, mais mis à l'écran, en tout cas, par rapport à ce que tu nous dis sur les drag kings, par exemple, ou sur d'autres types d'art du drag. Et si alors, je te lance là-dedans, après, tu vas m'en parler pendant des heures. Mais
les drag kings, juste pour dire, parce que j'ai montré ça aux autres tout à l'heure, ça a été annoncé tout à l'heure, enfin ça n'a pas été annoncé, mais en tout cas il y a eu la bande-annonce pour la toute première compétition de drag king au monde. La bande-annonce pour ça est sortie genre aujourd'hui, en 2025, enfin on va avoir la première compétition télévisée de drag king.
Dinguerie.
Ça fait 17 ans que Drag Race, RuPaul's Drag Race existe, ça fait 3 ans qu'on a Drag Race France. Et là, enfin, on va avoir du coup la série de compétition Kings of Drag qui va sortir et qui va permettre d'enfin voir des drag queens en compétition. Donc, le fait que rien que l'aspect compétition pour les drag kings, on le voit enfin seulement en 2025. Je pense que ça te fait un peu un état des lieux de à quel point on les voit en général à l'écran. Quoi. Personnellement, je ne connais aucun film, aucune série qui met en avant des drag kings. Peut-être des documentaires à la limite, mais honnêtement, j'ai regardé quelques documentaires sur le drag, mais pas énormément. Et c'est vrai qu'au niveau de l'art du drag, on est sur des représentations qui sont assez similaires les unes avec les autres. En tout cas, dans les années 90, c'était soit la drag queen comique, soit la drag queen vraiment qui est sur un stéréotype de femme sensuelle, etc.
Au cinéma, du coup.
Au cinéma, ouais. Ouais. Ah, des séries avec
des drag queens. Et t'as des exemples de films, par exemple
On a donc du coup La Cage aux Folles et son adaptation américaine The Bird Cage. On a Priscilla, Reine du Désert, pour un exemple australien.
Il est génial ce film.
Ouais, en plus en mode road trip, donc c'est très cool. On a du coup donc Tu Wong Fu. Merci, je crois que c'est Julie. Merci Julie Warmer.
Merci Julie Lesco.
La raciste. Ce n'est pas un nom de drag queen, la raciste. C'est bien Julie Lesco. en vrai, il y a beaucoup de trucs. Et même si on veut aller sur des trucs plus anciens et où ça se mêle un peu la tristesse d'identité, on a le Rocky Horror Picture Show
avec Suzanne Sarandon.
Oui.
Pardon. vous l'avez vu ou pas ce film oui. Rocky Horror Picture Show?
J'ai un doute.
T'as un doute, ouais. Et toi, Julien?
Non, je n'ai pas souvenir.
Et par rapport à toutes ces histoires de stéréotypes, vous avez des films qui vous viennent en tête un peu comme ça, d'identité queer qui sont complètement à côté de la plaque. Moi, je pense à, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, Jacques Gamblin avec Le Placard ou des films à la con des années 90 comme ça, oui. Sur l'homosexualité.
En vrai, j'aime bien ces films, moi.
Ah, ouais, Jacques Gamblin
pareil.
Ah, oui, non. Bah non, les films très perchés, comme ça.
Ouais, ouais, ouais.
Ah oui. Non,
mais... surtout, à années 90, on avait énormément de ça. Enfin, que ce soit pour le drag ou pour les représentations queer dans les années 90, c'était souvent... Bon, à l'exception de quelques trucs comme justement Boys Don't Cry, c'était beaucoup de comédies où, oui, c'était stéréotypé, mais en même temps, en fait, on se moquait pas des personnes queer qui étaient dans les films, ou à limite juste de leur...
Donc c'était pas de la moquerie, c'était vraiment à but humoristique, il n'y avait pas de dénigrement.
En général, on se moquait justement des personnes qui rejetaient ou ne comprenaient pas.
D'accord.
Dans les années 90, dans les films et séries.
Pas un espoir, mais en tout cas un vent de nouveauté qui, ouais. Dans le cinéma en tout cas.
Par contre, c'est vrai que oui, les personnages drag, enfin de drag queen, dans les séries et. Non, bah oui, surtout dans les séries en fait, dans les années 90 et 2000, on va dire jusqu'à la moitié des années 2010, très souvent c'était des séries policières et très souvent c'était des personnages drag qui étaient le cadavre. ou un personnage de prostituée.
Oui, voilà. Donc il y avait, mais ça, bon, c'est les séries
c'était
télé.
Pas... Voilà. C'est clair. Et à partir de la moitié des années 2000, on a commencé à avoir quand même des représentations un peu plus variées au niveau des séries pour les dragues. Et puis maintenant, on n'est pas si mal. Enfin, c'est plus ou moins...
ça compte plus ou moins dans les sortes de quotas qu'ils ont maintenant.
Ouais, les quotas, les fameux.
Ouais, mais bon.
Justement, tu mentionnes les années 2000. On parlait de Chouchou tout à l'heure, de sa musique fantastique des années 80.
Mais on n'en a pas parlé plus.
C'est Niagara, d'ailleurs, qu'on a écouté avec L'amour à la plage. Moi, j'ai revu le film, beaucoup d'extraits, mais à la base, je n'avais pas un a priori sur ce film. J'en ai eu un, en fait, en vieillissant. Mais en fait, si c'est un film de 2006 et qu'il y a Gad Elmaleh dedans, c'est que c'est mauvais. Il y avait les deux.
Oui,
la mayonnaise prenait pas tellement. Et au final, c'est pas si mal en termes de représentation. Mmh. Et pas que drague sur. Je pense à l'homosexualité, à la transidentité, à tout un tas de petits sujets comme ça qui sont.
Puis d'avoir un personnage qui est algérien et en même temps, on le. Enfin, genre, tout n'est pas absolument basé sur le fait qu'il soit algérien.
C'est un contexte, quoi.
Oui.
C'est ce qui fait que
c'est le contexte, mais c'est pas tout le.
Et puis, il y a Catherine Froh qui joue une espèce de psychologue, psychanalyste. Alors, ça, c'est peut-être l'aspect.
Nicole Milakovic.
C'est peut-être l'aspect du film que moi, je n'ai pas aimé sur la psychanalyse et la transidentité, le drag, et ainsi de suite, où le Freud va essayer de t'expliquer pourquoi.
Mais tous les moments ça, où il prend son portrait de Freud là pour son confessional dans Drag Race. Moi, ça me termine.
Oui.
Vraiment, il se pose devant le portrait de Freud et il lui raconte sa journée, quoi. Il y a plein de moments dans le film comme ça. Et vraiment, je me dis, mais ils ont fumé quoi
mais c'est basé, en fait. C'est que il y a beaucoup de. Je pense à Judith Butler, je reviens toujours à elle, qui base quand même l'entièreté de son premier livre, Gender Trouble, sur la psychanalyse. Oui. Pas que, mais une grande partie sur ça. Et moi, ça m'avait quand même dérangé à la lecture. Bon, après, ça, c'est de la lecture scientifique, mais même quand je vois encore aujourd'hui, bon, on parlera après dans les luttes, mais encore aujourd'hui que certains politiciens te sortent des arguments sur telle ou telle chose, sur l'homosexualité, de psychanalyse tout pété du cul. Bon.
Ça existe encore ?
Ouais. Voilà. Mais Chouchou, bien. BO, ouais. Bien. Spectacle, drague, je trouvais incroyable. Gad Elmaleh est incroyable aussi dans le rôle. Catherine Froh est marrante. Il y a un acteur assez connu aussi qui joue le père là, à l'église. Je ne retrouve plus.
Alors, le père. Claude Brasseur.
Claude Brasseur,
voilà. Le père Léon.
Non, le film est plutôt bien. Franchement, vous pouvez le voir les yeux fermés. Voilà. Sur les stéréotypes, voilà, c'est pas quelque chose qui va trop choquer, je pense. Moi, j'ai quand même. Je me dis. Est-ce que ces stéréotypes-là peuvent aider à peut-être, comme La Cage aux Folles, montrer qu'au final, c'est des gens comme vous et moi qui ont leurs propres problèmes, des vies compliquées ou pas, avec des histoires de famille compliquées ou pas, ou entre les deux.
Je trouve qu'on a presque plus de profondeur dans les personnages drag des années 86 et 2000. Parce qu'à l'époque, il fallait, entre guillemets, prouver que voilà, c'est des personnes comme les autres. Que ce soit avec La Cage aux Folles ou avec Chouchou. Alors que souvent, les personnages drag dans les films plus récents, on est sur plus de légèreté, quoi. Enfin,
moi, je pensais même à plus loin que ça, la sexualité, en fait, les d'autres aspects queer, où il y a des films comme ça, des années 90, où le coming out est un énorme débat, et où aujourd'hui, au final, ça se fait par... Je vraiment caricature, mais ça se fait par texto, et...
Oui.
Et ça se passe très bien, j'espère, dans la majorité des cas, les personnes qui aiment les autres gens, enfin je sais pas. Ça me paraît bizarre d'avoir de la haine comme ça, mais dans les films, j'ai plus la sensation où, en tout cas, le coming out et les stéréotypes sont forcément un poids, et en même temps, il y a Emilia Pérez. Du coup, je suis un peu.
Ouais, il n'y a pas qu'Emilia Pérez.
Mais il n'y a pas qu'Emilia Pérez.
C'est étonnant parce que j'ai plus le nom dessus, mais il y a un film qui se veut comique, qui est sorti il y a 2 ans, du coup. je crois, c'est ça, et qui met en scène deux lesbiennes qui font un road trip pour un endroit et ils sont impliqués dans une histoire de mafieux, c'est ça, un vrai bordel. Oula. Oui, non.
Ah, avec
et qui parle, et qui parle toujours, qui parle de sexe tout.
C'est le film de l'un des frères Cohen. Je crois que j'ai l'affiche si tu veux à la maison.
C'est l'affiche. Non, je n'ai pas envie.
Il est mauvais. Hein.
Il est vraiment mauvais. Mais justement, du coup, non, il n'y a pas que Emile Pérez. Mais du coup, ouais, c'est bon là. Mais ouais, c'est.
Mais il y en a beaucoup plus. Vous, toi, tu, Oel. On t'entend pas trop.
Non, mais je réfléchis en même temps.
Toi, en termes de stéréotypes de films comme ça, des années 80, 90 et tout, et pas que, même actuel, qu'est-ce que t'as comme vision là-dessus? Est-ce que c'est plutôt une vision négative de cette époque-là ou t'arrives à mettre dans le contexte? Est-ce que,
si on parle des films comiques, je trouve que souvent ils vieillissent bien parce que, en vrai, le comique des années 90-2000, il est tellement perché que ça marchera toujours. Quoi. Je pense à But I'm a Cheerleader avec Natasha Lyonne, qui est genre complètement.
Hérou-Paul.
What the fuck?
Hérou-Paul. Hérou-Paul avec une moustache.
Après, c'est la bande à American Pie et tout ça. Hein. Ils sont issus de ce film. Hein.
Ouais. Mais voilà, des films tellement. Qui partent tellement loin. Dans le scénario et dans les histoires et dans la façon de jouer, qu'en fait, de toute façon, ça va bien vieillir. Mais quand on part sur des films, entre guillemets, plus sérieux, en fait, les personnages queer, notamment, mais aussi tous les personnages qui sont des minorités, vont soit finir tristes, seuls, mourir. Donc, en vrai, ça a quand même évolué parce que les personnages sont soit plus des personnages secondaires, soit plus des personnages qu'on doit montrer de façon négative. Ouais. Quoi.
En termes de film plus récent avec du drag, et qui est un film dramatique, et dont on a eu une des avant-premières à Brest, il y a 3 nuits par semaine avec Cookie Conti.
3 nuits par
semaine. Qui a été. Comment dire? Oui, parce qu'on avait eu une avant-première avec le Festival du Film Court et les Drags de Brest, on avait été invités. On avait pu rencontrer Cookie Conti à ce moment-là.
C'était en 2023, ça, non?
C'était 2022, je ne sais plus. C'était fin d'année, mais c'était juste avant justement que Cookie Conti parte faire le tournage de la saison 2 de Drag Race. Donc je crois que ça devait être... c'était 2022. C'était fin 2022. Et parce que je me rappelle, elle était en train de... comment dire? Elle faisait en même temps entre guillemets, la tournée de publicité pour le film. Et en même temps, elle préparait ses tenues pour aller faire Drag Race France, genre 2 mois plus tard. Donc, me suis dit, quelle femme, purée, parce que j'aurais pas eu ce multitasking. Mais du coup, 3 nuits par semaine, film où du coup, donc, le personnage de Cookie Conti, je crois s'appelle Cookie aussi, en fait, croise un homme hétéro à une soirée ou un drag show, je sais plus, et homme hétéro qui tombe amoureux d'elle et remet en question sa sexualité.
C'est chouchou, quoi.
C'est en soi, c'est un peu ça, hein. mais bien maquillé.
Ok.
et c'est un film dramatique pour le coup. C'est pas un film comique. Il y a quelques comiques de situation, et c'est un film qui est vraiment, je trouve, quand même très réel. Et on n'a pas c'est un film dramatique, mais on n'a pas une fin dramatique, tu vois. D'accord. On n'a pas une fin triste. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça bien quand même, personnellement.
Alors, du coup, le discours qu'on a là, c'est plus de la nuance. C'est que le stéréotype, c'est carrément OK, l'humour, c'est carrément OK, mais il y a un dosage à avoir à chaque fois dans la chose. Et le but, c'est de rigoler et pas de sortir de la salle en disant bon, j'ai passé un très mauvais moment, quoi.
Tout à fait. Mais ouais, c'est. Puis, ouais, 3 nuits par semaine, c'était le bon équilibre entre dramatisme et moments comiques slash drôles, quoi. Il y a un moment où le personnage le love interest de Cookie est sur scène et il doit dire des blagues, un truc comme ça, et dire mais vous savez c'est quoi de vivre vraiment avec une drag queen, d'être en couple avec une drag queen, c'est être un soir prêt à faire l'amour et devoir attendre 5 heures qu'elle se démaquille, qu'elle enlève sa tenue, qu'elle enlève ses 5 paires de collants, qu'elle enlève ses talons.
C'est vraiment d'aller qui parle de David Bowie, c'est incroyable.
Honnêtement, ça pourrait y ressembler. Et du coup, vraiment, genre, on a quand même cet entre-deux, entre il y a des moments drôles, il y a des moments dramatiques, et en même temps, c'est pour le coup, je trouve, d'un point de vue personnel, c'est un film qui n'est pas vraiment stéréotypé. Je pense que le fait d'avoir une vraie drag queen qui joue le rôle de la drag queen. Et là, il me semble que toutes les drags qu'on voit dans ce film-là sont jouées par des drags. Ouais. Donc, il y a ça aussi.
Et c'est une authenticité, quoi.
Ouais, et je pense que ça nous ramène un peu à ce point de caster des personnes qui sont concernées, qui sont vraiment de telle sexualité ou qui sont drag ou peu importe pour les films sur tel sujet. Au moins, même juste, Amit, pour juste aider à ce que ce soit plus réaliste. Quoi. Si c'est pas devant la caméra,
oui,
derrière.
Notamment bah, les scènes de cul lesbiennes dans certains films.
Adèle
On ne parlera pas de la vie d'Adèle. Mais par contre, hein, je voulais parler très vite fait avant de faire une pause musicale pour parler d'un. Du coup, pour enchaîner. Dallas Buyers Club, qui est un film très peu nuancé, à mon avis, entre la dose de « c'est vachement bien » et la dose de « c'est nul ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai eu tout le long, je me suis dit « mais c'est si bien, Matthew McConaughey est excellent, le film est plutôt bien réalisé, la musique est bien, le sujet est important, grave, on en parlera juste après ». Pour autant là qu'est-ce qu'il fait Jared Leto là, il s'entraîne pour faire le Joker
je pense qu'il faisait une pause avec son culte
non, mais voilà. Et vraiment je me suis dit mais en fait c'est alors oui on suit un personnage complètement macho masculiniste de homophobe connard voilà qui, au fur et à mesure, alors ça aussi c'est très cliché, mais apprend à avoir une certaine inclusion sur les autres. C'est toujours ça dans ce genre
bah,
de film.
Surtout qui apprend qu'il est séropositif.
Aussi, oui, bah ça.
Et
ça,
c'est ça qui l'amène vers une
apparemment.
Une humanisation de son personnage, mais.
Mais oui, une humanisation, enfin, mais ça passe par une série de clichés, ouais. Tous les plus désastreux les uns après les autres, sur à la fois l'homosexualité, sur la découverte de soi, sur la transidentité, sur le drag. Et je ne sais pas si c'est pour montrer une réalité qui est du coup, qui n'était pas forcément violente à l'époque pour les personnes qui vivaient ça, mais qui était en fait, qui était violente quand même, mais pour rendre ça aux téléspectateurs via la vision d'un connard et de se dire « Ah, c'est violent ouais. !» Je sais pas, je suis encore là-dedans. Et les stéréotypes, de coup, je trouve, sont très mal dosés.
En même temps, c'est la romantisation et la dramatisation d'une histoire réelle. Donc, c'est vrai que...
C'est pour ça que j'aime pas les biopics.
Je crois qu'ils sont même pas... Enfin, c'est même pas le vrai nom de la personne qui a été utilisée et tout, hein. Mais c'est un truc, c'est un biopic très librement inspiré, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que bon, le fait que le personnage principal a son déclic seulement parce que le personnage trans meurt, bon, il y a d'autres moyens, quoi. Il y a d'autres moyens, en tout cas, de se rendre compte que toutes les personnes séropositives méritent d'avoir un accès à la santé, à des médicaments efficaces,
les personnes séropositives.
Sans devoir payer 400 balles par mois, quoi.
Avec des méthodes qui marchent pas.
Oui.
Ouais. Toi, t'en penses quoi, Aurèle ? Tu l'avais vu aussi, Dallas
Club ? Et quand je l'ai regardé, en vrai, je l'ai un peu bien aimé, mais parce que c'était la question de la séropositivité et de l'accès aux soins et tout. C'était une question que j'avais jamais vue dans les films avant. Et du coup, je me disais, ah ouais, ok, c'est quand même cool que. Ben, des films, entre guillemets, grand public l'évoquent.
D'autant que c'est quand même apporté aussi par la corporalité dans le film, par le physique de Matthew McConaughey qui a perdu une bonne trentaine de kilos pour le rôle.
C'était pour ce rôle-là ?
Je crois, ouais. Ah. Pour avoir cet aspect un peu zombie.
Malade, quoi.
Bah, ouais.
Et c'est clair que les personnages sont... Bah, c'est justement le truc de pousser les stéréotypes jusqu'à un point incroyable qui ne marche pas du tout dans ce film-là, quoi. Autant, justement, Chouchou ou But I'm a Cheerleader, les stéréotypes sont poussés à fond, ou Gazon Maudit même, et ça en devient drôle. Autant là, peut-être parce que c'est pas un film comique, bah, c'est juste l'enfer, quoi.
Désolé, je regardais l'heure. C'est une émission qui va durer un petit moment.
Oh wow.
J'espère que ça ne vous dérange pas. Moi, je passe un bon moment pour l'instant.
Oui, on passe un bon moment aussi.
Je crois qu'on a fait le tour du sujet sur les stéréotypes.
Je pense aussi. Ouais.
Je peux vous proposer.
petite pause. Allez,
petite pause. Je peux même mettre plusieurs chansons si vous voulez.
Ton chanson, ça peut être une bonne pause.
I am.
En fait, je.
I am.
J'entends Athéna me susurrer peut-être de mettre une chanson de Gloria Gaynor. effectivement, je pense que je vais faire ça. Et puis on va se retrouver juste après. Peut-être qu'on s'écoutera même... la version que tu proposes est une version de 2014 de La Cage aux Folles, chantée par Gloria Gaynor, I Am What I Am. Et il y a aussi l'OST que j'ai prise aujourd'hui de Ennio Morricone, du premier La Cage aux Folles de 78. Donc peut-être que je vais mettre l'un après l'autre. Voilà. Je vais d'abord commencer par Gloria Gaynor quand même. Oui. On se rejoint tout de suite. Et puis voilà, hein, vous êtes toujours sur Fréquence Mutine et vous écoutez les Brigades Cinéphiles. À tout de suite.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
vous n'êtes pas coincé dans un ascenseur, vous écoutez toujours Fréquence Mutine. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, nous, on passe un très bon moment. Je voyais Julien danser sur Ennio Morricone. C'est rare pour le notifier. Enfin non, après, Julien danse souvent sur les musiques.
Les musiques, c'est la vie. Danser sur des musiques, c'est encore mieux.
Alors moi je comptais terminer du coup sur une note peut-être un peu plus dramatique, un peu plus sérieuse, toujours autour du cinéma, mais pas forcément un peu se servir de ça comme d'un tremplin pour parler d'autres sujets qui arrivent en ce moment, et puis de vos missions dans les milieux associatifs aussi à vous. Parler de la lutte et des discriminations ainsi que la diversité dans le cinéma. Je sais pas si, donc on a déjà parlé de pas mal de films, notamment Dallas Buyers Club sur le sida, mais je voulais quand même revenir du coup sur le documentaire Paris is Burning et 120 battements par minute, ainsi que pourquoi pas continuer sur Tomboy que toi tu as vu, Oel.
Oui, tout à fait.
Voilà. Au choix, je sais que toi Athéna, Paris is Burning quand même, t'aimes bien.
Ça a une place assez important dans mon cœur, parce que c'est vraiment c'est un documentaire donc fait dans les années 90 par Jenny Livingston et en fait c'est du coup un documentaire qui suit la vie de personnes trans racisées à New York, et en fait surtout dans la scène ballroom, donc qui est la scène d'où vient le voguing, que beaucoup de personnes je pense ont fini par connaître avec le temps, mais en fait, ça suit leur vie, ça suit leur mort pour certaines. Le montage est assez particulier, mais en tout cas, c'est un film qui est, je trouve, très important, surtout au niveau des mémoires queer, puisque c'est une époque, les années 80-90, où on a peu de personnes vivantes pour nous en parler.
Des survivantes, beaucoup, même, non ?
Mais c'est ça, enfin, de survivantes à cause de la crise du sida VIH. Mmh. Et d'avoir ce documentaire Paris is Burning, dont d'ailleurs une version Criterion Collection est sortie en 2020 avec une seconde partie qui a été remasterisée. Et qui est vraiment, je trouve que c'est un film génial. Quoi. C'est,
qui a vu ici ce film ? Toi, Oel, quelle fut ton impression
Pareil, moi je l'ai adoré et je l'ai trouvé très important. Et ouais, juste, c'est quand même des personnes, comme tu disais, racisées, trans, pour la plupart qui étaient pauvres aussi.
Oui.
Et donc, c'est des personnes qui sont dans les films toujours les rôles secondaires, les amis, les gens bizarres, les personnes dont on parle pas, quoi.
Je vois que donc c'est réalisé par Jenny Livingston. On peut voir apparaître dedans Venus Extravaganza, Pepper La Beira, Dorian Corey, Willy Ninja. Donc ça rejoint à la fois donc personnes racisées, mais aussi d'origine afro et d'origine latine, latino. Donc c'est en fait ce documentaire, c'est un symbole d'intersectionnalité des luttes et de comment on peut se faire rejoindre des réalités de personnes qui sont discriminées, oubliées ou autres, pour qui ont les mêmes problèmes se les faire rejoindre pour une même lutte, quoi.
Carrément. Surtout que la scène ballroom à l'époque était quand même l'endroit où ces personnes-là pouvaient vivre. Parce que dans le monde hétéro, elles étaient gays, trans, etc. Et dans le monde des personnes racisées, elles étaient gays, trans, etc. Donc okay. C'était le seul endroit où elles pouvaient en fait être à 100%
elles-mêmes, quoi.
Ouais, dans leur monde, quoi.
Peut-être en sécurité aussi, du coup.
En sécurité. Et puis en fait, dans la scène ballroom, on a ce système de famille où on va avoir des house mothers, des houses déjà, donc des maisons, entre guillemets, et où on va avoir du coup des figures parentales qui vont recruter des personnes queer qui sont souvent rejetées par leur famille, qui sont gays, qui sont trans, qui...
C'est marrant que tu dises ça, parce que tu vois, le Lawrence Anyways, il y a ça dans le film.
Elle se fait récupérer un moment par deux vieilles drag queens qui ont 80, 90 ans dans les années 90. voilà.
Ils ont vu le Titanic.
Avec donc le cliché des drag queens avec le petit chien, un trône.
Pas un éventail.
si, je crois. Et un autre cliché d'une folle qui traîne par la fin.
Oui.
C'est plutôt bien amené du coup par rapport à ce documentaire. Mmh. Et vous, ce qui vous a marqué au-delà de ce qui est montré, de ce qui est raconté, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà la musique, l'histoire, peut-être un concentré
puis même en fait, le nombre de termes, d'expressions qui sont connus aujourd'hui, qui sont utilisés dans la communauté LGBT, mais aussi qui ont été jusqu'à optés par la culture commune, enfin la pop culture.
Comme quoi, par exemple
beaucoup, par exemple, de références qu'on retrouve dans Post Drag Race. Par exemple, reading is fundamental, la lecture, c'est fondamental. Donc, le truc de bibliothèque où on balance la shade de l'ombre sur les autres personnes, en fait, en disant des sarcasmes, des blagues pour read les autres personnes.
Okay.
Et en fait, ça, c'est tiré de Paris is Burning. En fait, ça vient de la scène ballroom. Beaucoup, beaucoup de termes viennent de la scène ballroom et en particulier, en fait, de la communauté queer racisée. Et, comment dire, c'est comme beaucoup de trucs, beaucoup de termes viennent de là, beaucoup d'expressions, de danse aussi. Enfin, par exemple, justement, le voguing vient de la scène ballroom, mais là, beaucoup de gens, en tout cas à l'époque, je n'étais pas encore né, donc je ne sais pas, mais en tout cas, en 1990, quand Madonna sort Vogue et fait un clip... Et du coup, sort un clip avec des danseurs de la scène ballroom. Pour beaucoup de personnes aux États-Unis et dans le monde entier, c'est leur première exposition au voguing, à la scène ballroom. Ça ne montrait pas non plus beaucoup à la scène ballroom. Et puis, ce documentaire par Paris is Burning qui sort l'année d'après, en 91, c'est la première fois où des personnes qui ont pu s'intéresser au voguing via la chanson et le clip de Madonna peuvent en fait... enfin voir un peu la vie des personnes qui sont derrière cette danse, cet art. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant. Et encore, justement, encore plus maintenant, comme effectivement, on a très peu de mémoire de cette époque, je trouve que c'est important pour toute personne qui s'intéresse à l'art du drag de regarder Paris is Burning, vu le nom justement d'expression et de comportement, de système qu'il y a dans le drag qui proviennent à la fois du documentaire Paris is Burning et de la scène ballroom. Quoi.
En fait, ce film, c'est une institution, en fait.
Exactement.
Et je rebondis sur l'histoire et ainsi de suite avec ce qui se passe un peu partout dans le monde. On peut en parler, si vous voulez. Je pensais parler de son abattement par minute avant d'en venir à ça, mais à Archives Vécues à Brest, envoyez-leur vos photos de Pride, envoyez-leur de la documentation, si vous en avez. C'est hyper important pour l'histoire en ce moment là, maintenant, tout de suite, de sauvegarder des documents vidéo, audio, visuels et écrits afin de préserver du coup cette mémoire, parce que déjà on le voit avec Paris is Burning, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses qui ressurgissent de cette période, et en ce moment il y a quand même un obscurantisme avec Trump, avec ce qui se passe au UK. Les lois, qu'elles soient anti-gay, anti-trans, anti-woke, entre gants grimés, qui arrivent. Donc, c'est à Brest. C'est pas qu'à Brest, mais on est brestoise, on est brestois. faites-le, c'est très bien.
Et au niveau justement de cet archive de contenu queer, il y a quelques années, il y a eu une série une compétition en série de voguing. Avec la scène ballroom, donc qui s'appelle Legendary, qui était une compétition de Paramount. Et il y a eu trois saisons. Il y avait des personnes issues de la scène ballroom qui jugeaient. Et Megan Thee Stallion, qui était là, qui jugeait aussi. Honnêtement, que j'aimais beaucoup. Et Kiki Palmer dans la troisième saison. Et du coup, on voyait des houses de la scène ballroom s'affronter pour essayer de décrocher le grand prix Et tout ça, quoi. Et en fait, au terme de la troisième saison, donc qui est sortie, je crois, en juin 2022, ça a été annoncé que la série, la compétition était annulée. Et en plus, que ça allait être retiré, en fait, de Paramount, sachant que c'est jamais sorti sur d'autres médias, c'est jamais sorti en DVD ni rien, ce qui fait qu'actuellement, c'est un contenu perdu. Heureusement, les gens ont téléchargé ça avant et c'est disponible en streaming illégal, mais c'est dire à quel point justement la préservation des contenus, même quand ils sont disponibles via des moyens légaux, en vrai, pour les contenus queer, c'est essentiel, quoi, parce qu'on ne...
D'autant qu'on jamais... on le voit, enfin, nous, à faire des... Là, on s'épanche un peu plus que dans le cinéma, mais pour en revenir là-dessus, avec certains studios comme la Warner...
La Warner.
Et d'autres... Bon, bah en fait, soit ils changent carrément tout le film, ils remontent tout le film de A à Z pour éviter tout signe de quoi que ce soit. Il y a un film, je crois qu'il y a un court-métrage qui a été annulé ou arrêté pour Pixar aussi.
Oui, totalement. Pour Pixar aussi. C'est une séquence.
Qui était sur une personne trans, je crois.
Justement, c'est une séquence, ouais. Je crois que c'est qu'une séquence. Pour moi, c'est une séquence parce que le film, pour moi, il est sorti, à vérifier. Mais pour moi, c'est une séquence par rapport à des questionnements de transidentité dans un film Pixar. J'ai vu justement des gens réussir à récupérer des scènes coupées et j'ai vu les sketchs. Et ça avait l'air trop bien. Sauf que ça n'a pas été un film.
Il y a ça, il y a aussi les films qui sont changés pour l'étranger, notamment en Chine. Mais pas que, en fait.
Tant qu'on parle de la Warner, ça date un petit peu maintenant, mais genre, il y avait un film Bad Girl qui avait été prévu et le film a été annulé alors qu'il était fini. Il était quasiment fini, quoi. Pareil pour Bibi Pickett, mais là on s'écarte du sujet.
Il y a beaucoup de choses comme ça qui disparaissent au profit des studios
au profit de l'argent.
Et je tiens quand même à notifier pour les fans d'Harry Potter, ce dont vous avez le droit, parce que
c'est une licence compréhensiblement populaire et intéressante.
Voilà. Sachez que chaque argent que vous mettez dans l'achat d'un jeu Harry Potter, d'un film Harry Potter, d'un livre Harry Potter, va directement financer des lois homophobes, transphobes au UK. L'écrivaine donc J.K. Rowling ne s'en cache pas.
Elle est très très fière de
le
montrer bizarrement.
Elle a félicité la nouvelle loi qui est passée, sachant qu'elle a financé les assos qui ont milité pour, elle a financé les campagnes des politiques qui ont fait passer cette loi. Elle a financé tout ça avec l'argent des fans d'Harry Potter.
Et c'est ça.
N'hésitez pas à pirater.
Et c'est ça, c'est ça aussi pour. Justement, on en parlait avant l'émission. La fille d'Elon Musk, qui est l'une des filles, parce que lui, il est en train de se faire un RM, c'est une horreur. L'une de ses filles est transgenre. Et quand vous achetez quand même une Tesla aujourd'hui, déjà, vous achetez un truc nazi.
Qui a plus de chances d'exploser que de rouler.
Qui a plus de chances d'exploser de rouler. Mais aussi, vous financez en fait un mec qui a une haine viscérale contre, comme J.K. Rowling, les identités queer.
Après, des fans en général. Parce que,
et des femmes en général. De toute façon,
si
il est très courant.
Il a eu recours pour chacun de ses enfants à l'editing de l'ADN pour faire en sorte que tous ses enfants soient des hommes.
Ça n'a pas marché.
Et du coup, il a eu une fille biologique qu'il a oublié. Et il a eu du coup sa fille trans qu'il a plus ou moins renié dès le moment où elle a refusé d'être un garçon, quoi.
Et tout ça, c'est... pour vous dire que, en fait, que ce soit lorsqu'on binge-watch, même sur Netflix, ou autre chose, il y a un aspect politique dans le fait d'aller au cinéma, de voir un film.
Tout le film est politique,
tout est politique dans tout ce qu'on fait, c'est dans tous les achats, les choses, les actes que l'on fait, même ce soir, l'émission que l'on fait, elle est politique d'une certaine manière. Et donc Elon Musk, lui, ce connard, il dit ça, c'est un connard, il fait de la discrimination, mais... à côté de ça, il y a Robert De Niro. Sa fille fait son coming out trans. Ça génère une vague de soutien énorme. Même lui, il est super content. Il dit je l'aime et ainsi de suite. Et il y a plus de 300 acteurs et actrices qui vont lutter contre ce qui se passe actuellement aux États-Unis, qui est dégradant pour les droits humains, pour tous les droits des femmes, pour tout le monde. C'est une horreur. Et c'est pour ça que je voulais parler de 120 battements par minute.
Attention.
Voilà, j'ai parlé de ce que je voulais en parler avant, de 120 battements par minute. Mais bon. Parce que justement, ça parle de militantisme, en fait, ce que vous faites, vous, au quotidien, j'imagine. Enfin, je sais, après, je ne sais pas trop pour toi, Oal, ou pour Julien, vous, qui êtes dans les assos. Toi, tu as dit tout à l'heure que tu faisais de la prévention beaucoup.
C'est ça. Bah, ça va être surtout auprès de nos événements de permanence qui, où on ouvre le débat, on discute, on éduque, on réfléchit, on partage nos idées, nos histoires aussi, il faut le dire. Et avec ça, on fait également des événements pour sensibiliser enfin, de la prévention sexuelle. Auprès des étudiants. Donc, c'est dans le but d'éduquer, dans le but de renseigner, de nous visibiliser surtout auprès des jeunes.
Ouais. Comme ça. Vous êtes à la fac.
On est à la fac, justement, c'est pour ça qu'on dit ça, qu'on fait tout ça. Okay. Donc, oui, c'est si.
Et vous, à Brest-la-Trans, alors je vous ai connu même un peu avant, mais surtout l'année dernière à la Pride, parce que j'ai fait des photos, je crois, des discours et vous y étiez.
Voilà. Carrément. Bah, nous, on a une grosse partie quand même de l'asso qui vise à la delphité, je sais pas comment le dire autrement. Donc, la camaraderie, carrément, pour du coup les personnes concernées, que ce soit les personnes trans, personnes non binaires, les proches des personnes trans et non binaires, et aussi les personnes en questionnement. Et il y a un autre volet de l'association qui va plus être sur la sensibilisation, la formation, le être plus accueillant et inclusif pour les professionnels de santé, les pros en général.
Les administrations.
Les administrations, en gros, les personnes qui ont envie de mieux faire et qui arrivent à assumer que pour l'instant, elles n'arrivent pas à faire, quoi.
Ok, mais c'est vachement bien. Et toi, Athéna, bah, tu fais beaucoup de show. Tu as tenu un discours bien politique à la PAM pour le Sidraction, oui. Et c'était agréable à entendre.
Bon, après, donc, que je ne l'ai pas écrit, c'est le discours du coup que nos, comment dire, les organisatrices nationales de Sidraction ont écrit pour nous, donc, qui sont du coup Mini Majesté, Enza Fragola et Militante. Mais c'est vrai que... Bah, j'aime toujours l'occasion de faire un discours parce que c'est vrai que bah, en tant que drag queen, en tant que femme trans, on a toujours des trucs à dire, quoi. Et c'est vrai que, surtout en tant que drag, on est des personnes qui sont quand même assez exposées. C'est le retour de bâton de la fame. et du coup, bah, autant profiter de cette exposition et en même temps... Bah, parler des revers de cette exposition, que ce soit bah, justement les personnes qui nous harcèlent, les personnes qui fantasment sur nous, puisque ça arrive beaucoup.
Oula. Oh, ça, c'est un gros sujet, ça aussi.
Oui, mais est-ce qu'il y a ça dans le cinéma?
En vrai, techniquement, en soi, par exemple, 3 nuits par semaine, techniquement, le Love Interest, c'est un chaser, ça.
Ok. C'est quoi un chaser pour ceux qui nous écoutent?
Alors, un chaser, il y a plusieurs sens en soi, mais vis-à-vis d'une personne trans ou d'une personne qui fait du drag, ça va être une personne qui est attirée. Une personne qui, de base, il me semble plutôt hétéro, qui va être attirée et va aller, pour le dire gentiment, faire des avances aux personnes trans, aux personnes drag. Quoi.
Okay. Donc c'est de la fétichisation.
C'est clairement.
Ça. Okay.
Ok, bon.
Pour la joie, let's go, cinéma.
Non, mais bon, c'est bien de le savoir, c'est bien d'en parler. Ouais. Merci pour ce que vous faites, c'est bien. Du coup, 120 battements par minute, ACT UP à Paris, grosse association aussi. Je vous laisse présenter le film. Je crois que Oal, tu l'as vu.
Oui, et je l'ai adoré.
Eh bien, présente-nous un peu 120 battements
par minute.
Je pense
que je l'ai vu 4 ou 5 fois.
Oh, bah écoute, c'est juste que moi... C'est ta séquence, Athéna a eu la cage au folle. Tu auras 120 battements par minute.
Ouais, c'est un film qui se passe du coup au début des gros mouvements militants à Paris.
En 92.
Ouais, j'ai pas les dates exactes.
Mais début des années 90, selon
l'histoire débute au sein d'ACT UP autour de 90.
Pardon, excuse-moi.
Et du coup, ça suit les militants militantes qui, en fait, essayent tout simplement d'avoir accès aux infos, accès aux médocs, accès aussi à la visibilité de la galère d'être séropos. Et c'est un film. Oui, séropositif, pardon. Qui, du coup, la séropositivité, c'est le fait d'avoir acté le fait qu'il y ait un virus dans le sang. Et donc, les personnes qui ne sont pas contaminées au VIH sont séronégatives. Et le VIH, c'est la maladie en soi. Et donc, le sida, c'est un des stades de la maladie, qui est plutôt le stade de la fin. Clairement.
Général, oui. Stade avancé.
Et voilà, et du coup, c'est le début du VIH en France, avec toutes les inquiétudes, avec toute l'ignorance aussi qu'il y a à ce moment-là sur la maladie. Quoi.
Et peut-être l'omerta aussi autour de ça, non ?
Oui, clairement.
Il y a quand même une scène où ils sont en train de coller sous un pont, et il y a deux. Je pense qu'ils sont gays puisque c'est deux hommes qui se tiennent la main, qui passent et qui disent en fait arrêtez de nous faire peur, c'est bon, c'est un truc qui se passe aux États-Unis, pas ici.
Ça va, ils ont mangé un pangolin. <c'est> pas... ça nous rappelle, nous ramène à il y a 5 ans quoi.
Ouais, c'est un peu ça de vous nous faites peur pour 3-4 personnes qui sont mortes quoi.
Okay. Et donc ça, je rappelle, réalisé par Robin Campillo. Avec notamment Nahuel Pérez Biscaria qui joue Sean et Arnaud Valois qui joue Nathan. De quoi compte cette histoire par rapport à ces deux personnes ? Qu'est-ce que ça nous raconte d'eux, de leur vie ?
J'ai oublié qui est qui, mais.
C'est pas grave.
Y en a un, donc c'est les deux tombent amoureux. Et il y en a un qui. Les deux militent à ACT UP. Y en a un qui est séronégatif. Et donc, une des premières scènes qu'on voit, c'est des nouveaux militants qui arrivent à une réunion. Et en fait, on leur dit, vous militez à ACT UP, sachez que tout le monde va penser que vous êtes séropositif. Quoi. Mmh. Donc, préparez-vous à ça, à ce que vous soyez catégorisé séropositif. Ce qui est quand même genre lourd à porter à l'époque, notamment. Toujours aujourd'hui, mais notamment à l'époque. Et donc, à travers la lutte, à travers les manifs, etc., on voit aussi leur histoire d'amour évoluer, et évoluer aussi dans la maladie, du coup. Quoi.
D'accord. Donc c'est un portrait un peu horrible. En quoi...
dramatique. Très dramatique.
Alors moi, je l'ai vu.
Réaliste.
Je l'ai vu, mais je pose les questions chiantes. En quoi ce film diffère des autres par rapport au portrait qu'il fait de ces personnes-là ? Parce qu'on pourrait... par rapport à ce que tu dis, se dire c'est encore un truc misérabiliste, c'est chiant, c'est triste, c'est pataud. Est-ce qu'il y a une particularité qui fait dans l'écriture ou dans le jeu d'acteur même, ou dans la mise en scène, qui rend ce film à l'inverse de tous les clichés qu'on pourrait avoir sur ça ?
Mais je pense justement que c'est la question de la lutte qui vient casser le côté misérabiliste.
Okay.
Ouais. En fait, de montrer que on n'est pas juste des personnes qui sont pas acceptées dans la société et qui font des manifs pour être plus acceptées, ou alors qui au contraire se conforment à la norme cis-hétéro, et de lutter pour plus d'accès aux droits, aux médocs et tout, de lutter pour aussi juste être reconnues comme des personnes qui sont dans la société, et donc qui ont le droit à être malade et être traité, être malade et pas être catégorisé, quoi. Droit à avoir des relations, à être amoureux, à être
le droit vu, à avoir les mêmes droits, en fait.
Ouais, c'est ça. Sans devoir être normé.
Oui, ou comme encore aujourd'hui, certains hôpitaux se permettent de mettre des petites notes quand
carrément.
Ouais, bon.
Moi, ce que j'aime le plus avec 120 pardons par minute, c'est que dans ce film, on voit vraiment toute une panoplie d'émotions, de représentations de ce que les personnages ressentent. On voit et on ressent leur joie, on voit et on ressent leur colère, leur tristesse. Et surtout, en fait, je trouve que c'est au-delà d'un film sur le VIH-Sida, sur les années 90, sur une histoire d'amour, c'est un film sur la défité, quoi. Mm. Parce que, et sur la défité, pas seulement entre personnes queer, mais aussi entre, entre personnes queer et alliées, entre personnes séropo et séronégatives. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et j'en avais fait une performance au premier cinéma d'action qu'on avait à Brest, où j'avais pris des extraits du film pour projeter derrière moi. Et c'est vrai que c'est... En fait, ça montrait une réalité tout en ayant quand même un brin de fiction avec justement cette histoire d'amour. Et c'est... Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça prenant, quoi. Et assez fidèle, quoi. On n'était pas vraiment sur des stéréotypes.
D'accord. Et toi, Julien ?
Moi, pour le coup, alors, je suis le seul à pas avoir vu, du coup, malheureusement.
C'est pas grave.
Mais du coup, qu'est-ce que je peux te dire dessus de ce que j'entends, surtout ? Sûrement.
Écoute, ça pourra donner l'occasion d'en faire une deuxième émission, par exemple, sur ces thèmes-là, parce qu'on a oublié de parler d'énormément de films. Je pensais à Pride, un film écossais. Et oui.
La mamie.
Je pense à.
My lesbians.
Je pense à Suzanne Sarandon dans Thelma et Louise.
Suzanne Sarandon film, en général.
Oui. qui joue d'ailleurs aussi la grand-mère d'un homme trans dans un film il n'y a pas si longtemps. Enfin, pour moi, il n'y a pas si longtemps, c'était entre il y a 20 ans et... Bref, la plage est large. Je voulais peut-être terminer sur Tomboy que tu as vu, Oal, il y a un petit moment.
Il y a un petit moment, je l'ai vu deux fois dans ma vie. Ouais. Et la première fois, j'étais au collège.
Je crois que je l'ai vu aussi à l'époque. mais vraiment, j'en ai
en
tellement
2010,
peu de
du coup, 2011.
2011.
Ouais, ça devait être à la sortie en plus du truc. Et... La première fois que je l'ai vu, bon, du coup, j'avais genre 10 ans, 11 ans. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Pourquoi Du coup, à l'époque, je me suis dit, pourquoi elle fait ça Parce que du coup, l'histoire, c'est une... Alors, se présenter comme une petite fille qui arrive, qui déménage avec ses parents et qui arrive dans un nouveau quartier. Et qui, en fait, c'est la version enfant de Boys... de Boys Don't Cry, un peu, au début. Pour s'intégrer, va se faire passer pour un petit garçon. Et du coup, tous ses potes, et notamment la fille sur qui cet enfant a un crush, pensent que c'est un garçon de leur âge, quoi. Et regarder ça à 10-11 ans, sans questionner le fait que t'es une petite fille toi-même, tu te dis, bah, juste c'est trop bizarre de faire ça et de se trimballer torse nu en tant que petite fille, quoi.
Et ça, c'est des injonctions aussi, peut-être qu'on met.
Oui, grave. Ah, mais de
sur
ouf.
Les vêtements, sur plein de choses.
Oui. On pourrait parler beaucoup de ça.
Ouais, je sais pas qui ils ont casté pour jouer ce rôle-là.
Ils ont casté Zoé Errant, okay. Qui joue du coup Laure et Michael. Voilà, parce que c'est présenté malheureusement deux identités. et c'est réalisé par Céline Sciamma.
Ah, elle m'a dit quelque chose, je sais plus quoi, mais
c'est elle qui a fait le portrait de la jeune fille, en fait.
Ok, oui, c'est pour ça.
Voilà.
Mais ouais, du coup, justement, ce truc des injonctions, en fait, on ne sait pas si l'actrice, en l'occurrence, est une petite fille ou un petit garçon. C'est genre... on ne peut pas savoir.
Puis à cet âge-là, il y a une... Alors moi, j'ai toujours trouvé ça assez malsain qu'on fasse déjà une différence à cet âge-là. Et qu'on aille chercher cette différence par les organes, surtout sur des enfants, en fait. Pour moi, c'est un peu malsain de se dire, bon, il y a quoi entre les jambes de cet enfant? C'est bon.
Bah oui.
Bref, chacun voit midi à sa porte. moi, j'ai bien aimé Tomboy. Mais toujours un peu ce truc de récit, en tout cas scénario écrit via la vision d'un adulte qui n'est pas forcément concerné. Et je pense que ça montre à quel point les réalisateurs veulent faire les choses bien, mais qu'ils n'ont pas forcément les moyens, pas financiers.
Bagage surtout au niveau...
Pas tellement bagage, mais juste les moyens techniques d'avoir recours à des personnes qui connaissent ces sujets-là. Parce que, ben, invisibilisation tout le temps, ben, on voit ce qui se passe avec la Warner, on voit ce qui se passe chez Netflix avec le licenciement de pas mal de personnes queer qui se plaignent de la ligne éditoriale de Netflix. Donc, je comprends aussi que, ben, y a certaines personnes... même moi ce soir j'ai peut-être dit des conneries, tu vois, on n'est pas forcément au courant, mais on fait appel à des gens qui savent un peu mieux, quoi. Je sais pas, quand ta voiture tombe en panne, tu
vas voir un mécanicien, voilà.
C'est un peu une comparaison pourrie, mais j'espère que vous l'aurez compris. Tomboy. Voyez, et du coup, bah, il y a plein d'autres films qu'on a un peu zappé, notamment 20 000 espèces d'abeilles.
Maqué sur la question des enfants trans aussi, ouais.
Ouais.
Et en soi, du coup, dans Tomboy, on sait pas au final, si je me rappelle bien, si c'est.
Il y a un flou quand même.
Ouais, c'est ça. Mais c'est plutôt. On n'a pas de truc de c'est un petit garçon trans. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on.
Peut-être à la fin, il demande à ses parents de.
Je crois qu'à la.
La page Wikipédia, le genre masculin sur tout le long.
Mais parce que Wikipédia, c'est woke.
Ouais.
Ah ouais, non, mais ça, c'est...
Mais ouais, du coup, 20 000 espèces d'abeilles est franchement très chouette.
Tu l'as vu aussi ?
Ouais.
Et il y avait une avant-première, je crois, au studio.
Ouais, l'année dernière, ou il y a deux ans, la LDH faisait le festival de la LDH sur les films.
La Ligue des droits de l'homme, pour...
Oui. Et du coup, avait invité justement Brest La Trans à venir animer le débat qu'il y avait après le film. Et du coup, on a pu le voir à cette occasion-là. Et en fait, c'est du coup une petite fille en vacances avec sa famille.
C'est un film espagnol, je crois. Hein.
Ouais, oui. En tout cas, il parle espagnol, donc, ouais, je pense.
Estibaliz Urresola Solaguren.
Bon, après, j'ai envie de dire,
en réalisatrice.
Ça peut parler espagnol, ça peut se passer au Mexique,
oui.
Et ça peut être un film français.
tout de suite, la mauvaise foi.
À quoi tu penses ?
Non, mais c'est un film espagnol, et c'est avec Sofia Otero qui joue Lucia, Patricia Lopez qui joue Anne, et Anne Gabarin qui joue Lita. Voilà.
Merci. Et du coup, on suit les vacances de Lucia, et qui est franchement très chouette, et qui essaye... Enfin, sa transidentité, c'est quand même vachement le sujet du film. Mais comme c'est très intéressant et très bien amené, c'est pas. Enfin, il n'y a pas un regard bizarre sur le fait que c'est une petite fille trans, quoi.
Ok.
Et, et du coup, c'est elle qui essaye d'en parler à ses parents, à sa grand-mère, à ses grand-mères d'ailleurs, je crois. Et
sur la bande-annonce, il y a un jeu comme ça sur les espèces d'abeilles qui. Alors, je sais pas, il y a 20 000 différentes. Type d'abeilles dans un même nid ou un truc dans ce style-là.
Je sais plus exactement. Plus mais oui, je sais plus pourquoi c'est évoqué ça. Mais en fait, c'est parce que sa grand-mère est franchement très très chouette avec elle, et c'est elle qui va lui parler d'essayer de relativiser avec elle par rapport aux espèces d'abeilles. Et je crois que c'est pour dire qu'il y a tellement d'espèces d'abeilles qu'en fait il y a tellement de façons d'être enfant, et notamment d'être
soi-même.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, ouais, c'est
trop cool.
Un film vraiment à regarder, carrément.
Bon, bah, si vous le trouvez quelque part, en passant à gauche ou à droite.
Si jamais, je ne peux que recommander le documentaire Disclosure sur Netflix.
Tu m'en avais parlé, mais on va en parler juste après la pause.
Ah, bah, nickel.
Comme ça, on finira l'émission sur ça, sur les actualités, s'il y en a. Et puis voilà. En tout cas, c'est vachement cool. Merci d'avoir parlé de ça. Ouais. Choix de musique, du coup, je suis perdu.
Toujours trop de musique.
Paris is Burning, c'est parti.
I don't want it, but don't want it.
tant de sensualité ce soir. Wouh. Bon, j'espère que cette soirée vous a plu. Moi, ça m'a plu. Ça, est-ce que ça vous a plu, les invités?
C'était trop bien.
Ouais. Énormément. Tu venais nous parler de Disclosure.
Ouais, du coup, qui est donc un documentaire de Netflix. Netflix ne fait pas que les mauvaises choses. Et en fait, ouais, c'est un documentaire qui a été fait donc en 2020, qui suit plus ou moins, enfin qui retrace l'évolution, ça juste la présence, la représentation trans dans les films. Je sais pas s'il y a aussi les séries, si forcément si Laverne Cox. Donc c'est narré du coup par Laverne Cox. Et du coup, ouais, c'est sorti en 2020, en juin 2020. D'ailleurs, le jour de 19th, qui est c'est le 19 juin, qui est je crois que c'est la journée internationale de l'héritage noir, je crois. Enfin, okay. Américain, je ne sais plus exactement.
Mmh. J'aimais bien Morgan Freeman sur ce qu'il avait à dire là-dessus.
Mais du coup, ouais, ça suit la représentation des personnes trans et avec des témoignages en fait de plein d'acteurs et actrices trans qui ont été dans ces trucs. Donc, du coup, narré par Laverne Cox, mais avec dedans des acteurs et actrices tels que Susan Stryker, Alexandra Billings, Jamie Clayton, Chaz Bono, Trace Lizette, MJ Rodriguez, donc qui était dans Pose, Angelica Ross, pareil, qui était dans Pose, Brian Michael Smith, Candice Kane, et une des sœurs Wachowski. Et vraiment, c'est un documentaire, je pensais m'ennuyer, honnêtement, à l'époque où c'est sorti. Surtout que, pour le coup, nous, on sortait de confinement. Et au final, non, j'ai adoré. Et je le revois plus ou moins annuellement. Et, non, c'est très intéressant, c'est bien monté. Je ne peux que recommander.
Merci beaucoup.
C'est sur Netflix.
Et du coup, Julien, ouais, vous avez des recommandations de séries, de films à regarder qui parlent un peu de tout ça, de ces thèmes
Et ben, pendant que tu réfléchis, je peux y aller. On discutait avec Athéna pendant la pause, on essayait de retrouver le titre d'une mini-série qu'on a adorée. Et on l'a retrouvée. Ça s'appelle When We Rise. Et donc, ça suit la vie des années 80 aux années 2010. Donc, c'est quand même très long sur 4 épisodes.
Aux États-Unis.
Oui. Un peu des grandes figures militantes des droits LGBT en général. Et du coup, ça commence. Je crois que c'est même les années 70, puisque c'est pendant les mouvements anti-guerre aux États-Unis.
C'est possible.
Donc le Vietnam, les années 70.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Et donc ça commence de là et de réussir un peu à faire des ponts là-dedans jusqu'aux années, pour les droits au mariage. Ouais, voilà.
Okay.
Donc c'est quand même très très large. Ça passe du coup aussi par les années SIDA, par la Prop-8 aussi aux États-Unis et tout. C'est quand même super intéressant. Les épisodes sont un peu longs, je crois qu'ils durent en moyenne 50 minutes, 1 heure.
Ouais, bah c'est une mini-série quoi.
Ouais, mais franchement, ça vaut le coup.
D'accord, bah merci beaucoup. Julien, toi, tu...
J'avoue que j'ai pas...
tu pourras nous faire une petite liste que l'on publiera si jamais... sur notre Facebook ou dont on parlera dans deux semaines, si tu veux.
Parce que sinon, à chaque fois, j'ai beau creuser, à chaque fois, je trouve que j'ai que des films ou des séries où les personnages queer sont des personnages secondaires.
Mais c'est pas grave.
Qui sont que en contexte, donc bon. Mais bon, bref.
En tout cas, merci à vous trois. Merci à Julien, maintenant tu fais partie de l'équipe.
C'est ça.
Merci à toi, Athéna. Merci. Ouais, est-ce que vous avez un mot à dire d'amour, de paix ou de haine?
Merci à toi aussi, déjà.
De rien.
Merci
beaucoup. Et est-ce que vous avez des contacts pour que ce soit à la Pride? Je sais que vous êtes en ce moment en financement. Est-ce que vous avez un lien pour ça?
Alors, les gens peuvent suivre le compte Instagram de la Pride, donc qui est tout simplement appelé Pride Brest. On a une page Facebook aussi, créée il n'y a pas trop longtemps. On pense aux personnes plus âgées qui sont que sur Facebook.
Oh là là.
Je pense à
pas
toi, Gaïa.
Mais je t'emmerde.
Et sur cette page Instagram et page Facebook, justement, on a posté on a annoncé hier la tenue d'une soirée jeudi prochain, une soirée karaoké boom ou karaokeer. Dont l'objectif sera de récolter de l'argent pour la marche de la fierté, puisqu'on est légèrement en galère. On a besoin d'une sono et malheureusement la sono ça coûte cher. Oui. Et c'est moi qui officierai, qui gérerai le karaoké, donc n'hésitez pas, ce sera entrée prix libre.
Est-ce qu'on t'entendra chanter ?
Il y a moyen, faut que je trouve quoi, mais il y a moyen.
je vous conseille.
La dernière fois, c'est moi qui avais ouvert le bal, justement, parce que les gens avaient peur, donc d'ailleurs, n'ayez pas peur de venir chanter dès le début. Vraiment, il n'y a pas de quoi avoir peur. Ce sera entrée prix libre avec vente de nourriture, donc normalement des gâteaux, cakes et hot dogs, entre guillemets normaux et VG, à prix libre, et vente de ponches et ponches non alcoolisées. Et tout ça pour donc financer cette marche de fierté qui se tiendra le 14 juin 2025. Wow. À Place Wilson et dont l'affiche sera très bientôt dévoilée. Et sinon, le 17 mai, vous pourrez me retrouver ainsi que plein d'autres artistes drag au Grabuge pour la soirée d'ouverture du Queer Brest Fest. On prépare un petit drag show.
J'y serai. Voilà. Vous, à Brest-la-Trans, j'imagine que vous êtes aussi sur la Pride actuellement.
Oui, sur la Pride et sur le Queer Brest Fest aussi.
D'accord. Et il n'y a pas que vous, il y a les Pétrolettes, il y a encore d'autres assos à Brest, j'imagine.
Quand on regarde la Pride, ouais, on a Archivécu, les Détra Queers, Brest-la-Trans, les Pétrolettes, Gloriole. Pour la Pride, je crois que c'est tout. Spectacle n'est plus des nôtres.
Ça fait du bien d'avoir autant d'assauts à Brest, que ce soit pour ça et pour plein d'autres choses. Ça fait plaisir de vivre à Brest. Ouais. Moi je vais finir sur une recommandation de films queer également, mais qui passe cette fois-ci chez nos amis au studio à Brest, qui passe le 6 mai à 20h. Un film qui fête ses 26 ans. Oui, Matrix.
J'aurais dû me douter vu que c'est toi.
Voilà, allez-y, ça mange pas de pain de voir ça au cinéma. Il n'y a pas eu toutes les remasters, tout ça. Non, c'est bien. Allez-y. Et en plus, c'est en VO. Voilà.
Ah, ça, c'est toujours bien.
Moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir. C'était une superbe émission. Merci, Julien, d'être venu. Je pense aux autres brigadières et brigadiers qui n'ont pas pu venir.
Malheureusement, on leur fait
malheureusement. Moi, je serai probablement là pour la face A la semaine prochaine et sûrement là pour la face B dans 2 semaines. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était les Brigades Cinéphiles sur Fréquence Mutine 103.8.
Good night and good luck.